Vous êtes sur RTL.
Bonne journée à toute l'équipe de nos petits matins. Ce 11 novembre ne sera pas comme les autres, en tout cas sur l'antenne d'RTL ce matin. Et cela grâce au caporal-chef Manuel Cabrita. Il est l'invité d'Alba Ventura à 7h40 après l'explosion de son véhicule au Mali, c'était en 2017. Une mine artisanale, il a ce jour-là perdu un bras, une jambe, il se croit aveugle et décrira ses instants hors du temps à Alba. Manuel Cabrita s'est engagé dans l'armée française un mois après les attentats du 11 septembre. C'était sa réponse intime à la chute des tours. Cette rencontre du 11 novembre ne sera pas comme les autres. Même émotion, même surprise. Avec notre RTL, événement à 7h15. Nous serons dans la Marne avec Samuel Goldschmidt et vous allez découvrir qu'en 2021, on enterre encore nos poilus. Vous ne rêvez pas, ce sont des enquêtes incroyables, plus d'un siècle après la Première Guerre mondiale, mais l'émotion est restée la même pour les familles. Alors oui, ces commémorations ont un sens, une force et une émotion que nous voulions vous faire partager ce matin dans votre matinale d'information. Au chapitre des réjouissances et des curiosités, les confessions gastronomiques du professeur de criminologie Alain Bauer. Cet expert international que vous entendez habituellement parler délinquance et terrorisme est aussi une fine gueule et il nous propose le premier panorama du paysage gastronomique de notre pays pour ce qu'il baptise lui-même le restaurant d'après, après le Covid bien entendu. Il sera accompagné de la talentueuse chef Amandine Chéniaud. Des émotions, une belle table et de l'info. Nous vous souhaitons une très belle journée à l'écoute d'RTL. Il est 7h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
C'est lui qui a recueilli la jeune Lisa en Mayenne.
Vous entendrez le témoignage du gérant du restaurant où s'était réfugiée la lycéenne quand elle a été retrouvée. Elle a pu rejoindre ses parents hier soir. Aminata Diallo a passé la nuit en garde à vue. La joueuse du PSG est toujours entendue dans l'affaire de l'agression de sa coéquipière Keira Amraoui. Une affaire qui secoue le monde du football. Les prises de rendez-vous repartent à la hausse pour la troisième dose de vaccin anti-Covid, mais pas évident pour les communes de se réorganiser. On verra ça dans le Morbihan, dans une mairie où le téléphone n'arrête pas de sonner. Enfin, les premières explosions avaient retenti près du Stade de France pendant le match de foot. 6 ans après les attentats du 13 novembre, un hommage aux victimes sera rendu samedi pendant la rencontre entre la France et le Kazakhstan.
La politique, Olivier Bost.
Et je vous propose une plongée dans les coulisses de Facebook ce matin. Vous verrez, ça concerne la démocratie et nos élections.
Votre analyse dès la fin du journal.
RTL Matin.
Le soulagement de retrouver ses parents. Lisa, cette lycéenne portée disparue en Mayenne, a pu rejoindre sa famille hier soir après avoir été examinée par des médecins. Elle affirme avoir échappé à des ravisseurs avant de se réfugier dans un kebab de Sablé-sur-Sarthe et d'être recueillie par Gurven, le patron du restaurant.
On était en train de travailler comme d'habitude. Il était à peu près de 20h, 20h10. Elle s'est mise contre la boutique, contre la devanture, la vitrine. J'ai des clients qui étaient dehors. Il y a une cliente qui m'a dit c'est la jeune fille qui a disparu hier. Et suite à ça, je l'ai pris en charge. On lui a donné une veste pour qu'elle se réchauffe. Mais elle était juste choquée. Ça se voyait à sa tête. On l'a installée, on l'a mis derrière dans l'arrière-cuisine. On lui a donné une veste pour qu'elle se réchauffe. Et on l'a installée derrière. J'ai appelé la gendarmerie, les pompiers. Et tout le monde est arrivé assez rapidement. Il y avait beaucoup de monde, il y avait beaucoup de gendarmes. J'ai pas compté. J'étais content qu'elle soit là, qu'elle soit vivante.
Le patron du restaurant où s'est réfugiée Lisa au micro RTL de Vincent Serrano. Concernant l'enquête, la jeune fille évoque aussi une camionnette verte. Les enquêteurs analysent toujours les images de vidéosurveillance de la ville. L'ultime hommage rendu à Hubert Germain, le dernier compagnon de la Libération disparu à 101 ans le mois dernier, sera inhumé cet après-midi au Mont-Valérien. Avant cela, Emmanuel Macron va présider la cérémonie de l'armistice à l'Arc de Triomphe.
Et à 7h20, ne manquez pas notre RTL événement. Notre reporter Samuel Goldschmidt est donc parti sur les traces du dernier poilu identifié sur le site de la Manne-Massie, c'est dans le département de la Marne, donc un siècle après. Même chez les garçons, on n'avait jamais vu un tel précédent. Les mots, hier soir, de l'entraîneur de Lyon.
Sonia Bonpastor a réagi au placement en garde à vue de la footballeuse Aminata Diallo. La milieu de terrain du Paris Saint-Germain est entendue après l'agression jeudi de sa coéquipière, Keira Amraoui. L'affaire secoue le monde du ballon rond. Avec des zones d'ombre sur ce qui pourrait ressembler à un règlement de compte, Jean-Michel Rascol.
Aminata Diallo est-elle responsable de l'agression dont a été victime Keira Amraoui, frappée aux jambes avec une barre de fer? C'est ce que tentent d'établir les policiers. La garde à vue de Mademoiselle Diallo a été prolongée de 24 heures, mais aussi celle d'un homme qui était en prison au moment des faits, qui aurait pu, à distance, organiser le guet-apens. Ils sont entendus pour violence volontaire avec préméditation. Jalousie, rivalité, Amraoui 31 ans, Diallo 26 ans, évolue au même poste au PSG, au même poste en équipe de France. France. D'ailleurs, le mois dernier, chez les Bleus, la plus jeune avait remplacé dans le groupe la plus âgée, forfait car blessée alors au mollet. Le PSG dit collaborer avec la police judiciaire de Versailles. Le club évoque une équipe secouée. Une sale affaire qui rappelle une histoire qui avait ému et passionné toute l'Amérique en 1994. L'élégante patineuse Nancy Kerrigan avait été victime d'une agression commanditée par le compagnon de sa rivale, avec en toile de fond une sélection pour les Jeux Olympiques.
Jean-Michel Rascol du service des sports de RTL. Et toujours en foot féminin, mais on parle cette fois des résultats. Oui. Victoire dans la douleur des Lyonnaises hier face au Bayern Munich. Score final 2-1 pour cette troisième journée des phases de groupe de la Ligue des Champions. Les septuples tenantes du titre presque assurées d'une qualification pour les quarts.
Il est 7h05. Le pass sanitaire sera-t-il soumis à une troisième dose de vaccin pour les 50-64 ans? Je dis bien 50-64 ans.
Et pour le ministre de la Santé, Olivier Véran, la question n'est pas tranchée, mais elle est légitime. Ce sera bien le cas, par contre, dès le 15 décembre pour les plus de 65 ans. Alors que les prises de rendez-vous pour cette injection repartent à la hausse depuis les annonces d'Emmanuel Macron, c'est toute une organisation qu'il faut remettre en place pour les communes, comme à Beau, 5000 habitants dans le Morbihan, et où vous vous êtes rendu, Valentin Boisset.
Oui, depuis l'ouverture de la mairie, chaque minute, le téléphone sonne. Trois personnes répondent.
Et j'aurais voulu avoir un rendez-vous pour le vaccin.
Pour la troisième dose, madame ?
Pour la troisième dose, oui.
Une vague de centaines d'appels qui suit l'allocution présidentielle. En quelques heures, la petite mairie s'organise. La salle des fêtes est réservée pour le 25 novembre. Tous les créneaux seront condensés en une journée.
Alors, on a 600 créneaux de prévus pour le 25.
Tous les créneaux sont déjà complets. Pauline est l'une des chargées de l'organisation.
Il va falloir trouver des médecins, des infirmiers, des bénévoles.
Vous les avez tous trouvés ?
Pas encore. Pourquoi ?
Vous venez avec votre carte vitale et le certificat de vaccination.
D'accord.
Un peu plus loin, les agents municipaux construisent les box dans un atelier. Isabelle Boëlet est adjointe à la santé. Trouver du personnel médical, c'est son travail. Mais dans cette commune rurale, la tâche est compliquée.
Oui, c'est énorme. Puisqu'on ouvre 4 box, il faudra 4 médecins. Mmh. Sachant qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, les médecins ont beaucoup de travail, sont peu nombreux sur nos communes.
Restera un défi logistique car certains habitants des communes alentours auront du mal à se déplacer jusqu'à la salle des fêtes. Il faudra donc organiser des solutions de transport.
Le reportage de Valentin Boisset dans le Morbihan pour RTL. Et dans le même temps, chez nos voisins, l'Allemagne vient d'enregistrer plus de 50 000 contaminations en 24 heures. Dès lundi, tous ceux qui ne sont pas vaccinés dans le pays ne pourront pas aller dans les restaurants sans terrasse, les bars, les salles de sport et les salons de coiffure.
3 jours seulement pour déménager tout un appartement, c'est ce que vivent les habitants en Seine-Saint-Denis.
Ils résident dans la tour Obélisque qui menace de s'effondrer à Épinay-sur-Seine. 34 étages et 164 logements. Toute la façade sud devait être évacuée hier soir. Et Aurélia Valarié, vous étiez aux côtés de ces habitants qui n'ont pas reçu de proposition convenable pour se reloger.
Au 12e étage de la tour, je retrouve Mohamed qui enlève les derniers meubles.
Du coup, là, comme vous pouvez constater, la cuisine, on a tout retiré. On est en état d'urgence.
15 ans de vie dans cet appartement balayé en seulement 3 jours.
On a tous nos repères ici et du jour au lendemain, on nous dit ouais, faut partir. Là, actuellement, je suis en état, je suis SDF.
Et Mohamed n'est pas le seul dans le reste de l'immeuble. Les cartons envahissent littéralement les couloirs, bloquent les ascenseurs et tout ça sur 34 étages. Didier habitait là depuis 38 ans et aujourd'hui, c'est retour à la case départ.
Bah, pour l'instant, moi, je vais vivre avec ma mère, 86 ans, et moi, j'en ai 64, comme un enfant.
Mais certains n'ont pas encore trouvé de solution. Sarah est démunie face à la situation de ses parents.
Il y a encore toutes les affaires de mes parents parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers de payer un déménageur ou de payer un garde-meuble. On ne sait pas ce qui... Ma mère, elle veut se suicider. Elle s'est coupée les cheveux. Elle fait des crises d'hystérie tous les jours parce qu'elle ne veut pas quitter son appartement. On ne sait pas quoi faire.
Comme cette famille, une vingtaine d'habitants ont décidé de ne pas quitter les lieux ce mercredi soir malgré l'arrêté préfectoral, faute de solution adaptée.
Le reportage d'Aurélia Valarié en Seine-Saint-Denis pour RTL. Le reste de l'immeuble doit être évacué d'ici le 8 décembre.
Situation émouvante et impressionnante. Nous n'avions pas l'information qui aurait été décisive pour empêcher les attentats. Cette déclaration est celle faite par François Hollande hier au procès du 13 novembre.
L'ancien chef de l'État témoignait devant la cour d'assises spéciale. Il a notamment justifié sa politique étrangère au Moyen-Orient et répondu aux polémiques à 2 jours du 6e anniversaire des attentats. Ce soir-là, l'équipe de France de football affrontait l'Allemagne au Stade de France. Et samedi, elle fera face au Kazakhstan pour les qualifications au Mondial. Et un hommage sera rendu aux victimes, Nicolas Georgerot.
Oui, hommage au Parc des Princes en présence de l'association Life for Paris, l'association des victimes des attentats du 13 novembre. La fédération a également invité des soldats de la force Sentinelle. Une minute de silence sera observée avant le coup d'envoi. Les joueurs de l'équipe de France porteront un brassard spécial. Le stade sera aux couleurs du bleu et de France et des maillots des bleus seront ensuite vendus aux enchères. Les fonds récoltés iront à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre. Les Irrésistibles Français, le groupe officiel des supporters tricolores, qui seront aux alentours d'un millier, installés dans le virage Boulogne, ont prévu, selon nos informations, trois animations avant et pendant la rencontre. Les supporters tricolores tiennent d'ailleurs leur assemblée générale samedi matin. À l'ordre du jour, les retrouvailles post-Covid, mais aussi sur un tout autre sujet, l'amorce de discussions et d'échanges sur une présence officielle des Irrésistibles au Mondial, au Qatar. Il y a débat et une position commune sera prise plus tard au printemps.
Nicolas Georgerot du service des sports de RTL France Kazakhstan, ce sera à suivre samedi soir en direct et en intégralité sur RTL et sur M6. Et puis RTL se souvient, ce matin, il y a 20 ans, jour pour jour, Pierre Billot, journaliste à la rédaction, a perdu la vie en Afghanistan sous les coups de feu des talibans. À ses côtés, sa consoeur de RFI, Joanne Sutton, et Volker Andloïc, journaliste allemand du magazine Stern. Pierre avait 31 ans, il est mort en faisant son métier, la Palestine, la Tchétchénie, la Kabylie. Il avait couvert de nombreux conflits dans le monde. Sur RTL.fr, vous retrouvez son portrait. RTL lui rend hommage ce matin.
Et nous pensons bien entendu à ses amis et à sa famille. Il est 7h10, Hortense, on va partir faire maintenant un tour dans les airs.
Pour ce qui s'appelle le Fellow Fly, pour une aviation plus propre, Airbus s'inspire de la nature. Le constructeur européen vient en effet d'imiter les oies sauvages lors d'un vol entre Toulouse et Montréal, Arnaud Touche.
Oui, Nick McDonald, le chef de projet chez Airbus, est parti d'un constat simple en observant les oies sauvages qui volent en
l'oiseau de devant déplace de l'air et puis l'oiseau de derrière va surfer en fait sur cet air qui est déplacé. Donc c'est pour réduire la consommation énergétique sur les migrations.
L'expérience vient donc d'être tentée avec deux Airbus A350 au-dessus de l'Atlantique.
Les deux avions, ils sont à 3 km l'un de l'autre. Ça nous permet en fait, l'avion de derrière, de réduire sa consommation de carburant de l'ordre de 5% ou même plus. On a économisé 2 tonnes de carburant pour l'avion qui suivait le 350 qui était devant.
Et plusieurs avions pourraient donc traverser les océan en escadron en se donnant rendez-vous. Et ce n'est pas de la science-fiction, comme l'explique Muriel Assouline, directrice générale de la compagnie française French Bee.
Nos pilotes French Bee qui sont en opération de travail avec Airbus pour justement mettre en place l'ensemble des procédures et de la formation des équipages pour permettre d'avoir des vols commerciaux à horizon 2025 en vol en formation.
Les avions n'ont pas besoin d'être modifiés, seul l'ordinateur de bord sera reprogrammé pour que les avions soient si proches pendant la traversée.
Arnaud Touche, spécialiste transport de RTL. Et puis Yves, on y a un peu tous pensé dans le studio en entendant les oies sauvages.
Par-dessus les temps, soudain j'ai vu.
Moi, on ne résiste pas à vous mettre un peu de Michel Delpech ce matin.
Elle s'en allait vers le midi. La
c'était, disait-on à l'époque, la chanson préférée de Valéry Giscard d'Estaing. Étonnant. Allez, les courses, elles ont lieu à Toulouse.
Les courses à Toulouse avec un départ à 15h15. Donc les pronostics de Dominique Cordier, le 2, le 13, le 7, le 4, le 11, le 8, le 5. La dernière minute, c'est le 13, Prédro.
Et le journal de 7h nous était proposé par Hortense Crêpe. On retrouve notre éditorial politique avec Olivier Bosse. Bonjour.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Une ancienne ingénieure de Facebook, Frances Haugen, a été entendue hier à Paris par les députés puis par les sénateurs. Elle a alerté nos parlementaires sur les pratiques et les dangers de son ancienne compagnie.
Oui, pourquoi Facebook est-il un danger pour la jeunesse, pour la démocratie ? Comment rend-il tout sujet, tout échange éruptif ? Eh bien, rien ne vaut de se plonger dans les coulisses du géant américain pour le comprendre. C'est ce qu'a fait pendant quelques heures cette ancienne ingénieure, aujourd'hui lanceuse d'alerte. Une plongée effrayante dans la boîte noire Facebook, une plongée indispensable car jusque-là, l'Europe, comme la France, n'ont pas su comment réguler ces géants américains sans attaquer la liberté d'expression, un pilier de la démocratie.
Alors justement Olivier, qu'est-ce que révèle de plus cet ingénieur que ce que nous connaissons déjà ?
Alors elle révèle que Facebook choisit sciemment, comme tous les autres réseaux sociaux, en fait de ne rien contrôler pour ne pas attaquer un dollar de leur super rentabilité. L'algorithme, c'est-à-dire le programme qui choisit ce que vous voyez et qui vous suggère de voir d'autres vidéos ou d'autres messages, l'algorithme favorise toujours le contenu le plus clivant et le plus violent. Pourquoi ? Parce que c'est le plus partagé et c'est celui qui va vous faire revenir le plus souvent et qui à la fin vous fera voir le plus de pubs. C'est le business avant tout. En politique, cela a un effet pervers, c'est que ça favorise les messages des extrêmes, les propos les plus violents, les paroles modérées deviennent invisibles. Une fausse info se diffuse 7 fois plus qu'une vraie info.
Quelles sont les solutions ?
Alors jusque-là, l'idée était de contrôler en fait les messages à la source, de demander aux réseaux sociaux en fait de censurer ce qui est violent, haineux, dangereux. Le problème, c'est qu'ils ne le font pas ou très mal et que cela donne à Facebook, Twitter et les autres un pouvoir démesuré. Nous l'avons vu avec le bannissement de Donald Trump de ces plateformes. La liberté d'expression est un droit fondamental. Aujourd'hui, il y a une autre approche, encore difficile à formuler. S'attaquer non pas au contenu, mais à leur mode de propagation, les fameux algorithmes. Non seulement ils favorisent le pire, mais en plus, ils vous enferment dans des bulles. Et le phénomène est encore amplifié par les groupes sur Facebook. Consommer des vidéos complotistes, par exemple, Yves, contre la vaccination, par exemple, je suis sûr que ça ne vous arrivera pas, mais YouTube ne vous propose alors plus que des vidéos complotistes. L'une des pistes contre ces phénomènes est la transparence des algorithmes, c'est ultra technique, ou encore l'interdiction de certaines techniques de profilage, c'est-à-dire des techniques qui permettent de cibler chaque personne en fonction de tout ce que l'on sait sur elle et de la conforter dans ses opinions.
Alors, c'est à la fois grave et passionnant, mais qui veut s'y attaquer vraiment ?
Alors, les députés français ont essayé, ils ont échoué, les lois ont été repoussées. L'Europe a commencé avec la protection des données personnelles et elle veut continuer avec un nouveau règlement sur les services numériques. Ce chantier-là pourrait aboutir à la fin de la présidence française de l'Union européenne en juin prochain, c'est-à-dire après notre élection présidentielle. 2002 sera donc sous influence encore des réseaux sociaux hors de contrôle, des espaces de liberté indispensables et en même temps l'espace des pires manipulations et des pires influences.
Je rappelle ces deux informations que vous venez de nous donner. L'algorithme choisit toujours le contenu le plus clivant et le plus violent et une fausse info se diffuse 7 fois plus vite qu'une véritable information. Merci beaucoup Olivier Bost. À 7h40, témoignage d'un soldat français en ce 11 novembre. C'est le caporal-chef Manuel Cabrita qui nous racontera ses combats pour la France et particulièrement l'accident dont il a été victime en 2017 au Mali quand son véhicule a explosé. Il répondra aux questions à 7h40 d'Alba Ventura.
RTL Matin, Yves Calvi.
Il est 7h16. Emmanuel Macron a donc annoncé avant-hier qu'il voulait relancer la filière du nucléaire pour que la France puisse tenir ses engagements climatiques. Elle va développer à la fois les énergies renouvelables et construire de nouveaux réacteurs. Mais EDF en est-elle vraiment capable quand on voit le fiasco, par exemple, de la construction de l'EPR de Flamanville? Notre brigade a enquêté. Virginie Garin, bonjour.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Quand et où seront construits ces réacteurs?
Alors la construction pourrait commencer avant la fin de la décennie. Les lieux sont déjà connus. EDF a choisi de les installer là où existent déjà des centrales. Techniquement, le groupe se dit prêt à en faire 6, 2 à Penly en Seine-Maritime, 2 à Gravelines dans le Nord et 2 en région Rhône-Alpes, au Bugey ou au Tricastin. Alors pourquoi près des vieux réacteurs ? Il y a déjà une infrastructure nucléaire, des terrains et les riverains autour sont habitués. Les élus sont même ravis. En Seine-Maritime, 15 000 emplois sont prévus.
Est-ce que ces EPR seront les mêmes que celui en construction à Flamanville ?
Non, ce sera en théorie un modèle plus simple et plus facile à construire et se pose la question essentielle, celle du savoir-faire. Quand la France a stoppé son programme nucléaire il y a 30 ans, beaucoup de ses ingénieurs sont partis en Chine. Elle a perdu ses compétences et elle a du mal à les retrouver. L'EPR de Flamanville a pris près de 10 ans de retard et va coûter 6 fois plus cher que prévu.
Le président de la République justifie ses réacteurs pour respecter nos engagements climatiques.
Oui, parce qu'il va falloir un jour arrêter nos vieilles centrales. Alors que la consommation d'électricité va fortement augmenter, nos voitures, nos usines, nos chaudières vont de plus en plus fonctionner à l'électricité pour remplacer le fioul et l'essence. Et si on veut éviter d'utiliser du charbon, il faut construire des réacteurs. Les renouvelables ne sont pas forcément beaucoup plus chères. Les écologistes estiment qu'on pourrait très bien se passer du nucléaire. Mais Emmanuel Macron, lui, veut les deux, moitié renouvelable, moitié nucléaire.
Le président justifie son choix au nom de l'indépendance énergétique pour ne plus dépendre du gaz ou du pétrole étranger dont les prix s'envolent.
Hein. Alors, EDF a un stock d'uranium pour assurer au moins 2 ans de production. Après l'uranium, on ne va pas le chercher en Auvergne, mais on l'importe du Niger, du Kazakhstan. Pour construire des réacteurs, il faut aussi importer de nombreux composants et de la main-d'œuvre. Donc non, on ne peut pas parler d'indépendance énergétique totale.
Merci beaucoup Virginie Garin. Dans un instant, RTL événement, vous allez découvrir qu'en 2021, on enterre encore nos poilus. Vous ne rêvez pas, ce sont des enquêtes absolument incroyables. Plus d'un siècle après la Première Guerre mondiale. Et nous allons retrouver Samuel Goldschmidt, notre correspondant dans l'Est. Du pays va nous emmener dans la Marne, très exactement.
RTL événement.
Vous n'allez pas en revenir. On enterre encore des poilus plus de 100 ans après la fin de la Première Guerre mondiale. RTL événement est de retour aujourd'hui à la main de Massige. C'est dans le département de la Marne. Avec vous, Samuel Goldschmidt. Bonjour.
Bonjour Yves. Bonjour à toutes et tous.
Samuel, vous avez assisté à l'épilogue d'une quête extraordinaire, celle du soldat Ferdinand Guerre, que sa petite fille a pu enfin enterrer 106 ans après sa disparition.
Oui, cela s'est passé à la nécropole nationale du Pont de Marçon, au pied de cette main de Massige, colline sanglante des offensives de Champagne. Et c'était prenant d'entendre l'arrière-arrière-petite-fille du soldat Guerre lire la lettre, sans doute d'adieu, du poilu à sa femme, datée du 21 septembre 1915.
J'arrose de mes larmes cette lettre qui, j'espère, n'arrivera jamais, car tu ne peux pas comprendre toute l'énergie qu'il me faut pour t'écrire cela. Je vous couvre de sincères caresses et maintenant, à la volonté de Dieu. Au revoir, doux baiser de Fernand Guerre.
4 jours plus tard, il est tué d'une balle en plein front à l'assaut de la main. Et il y a un témoin, son copain, le soldat Guy Berthaud, qui écrit à sa veuve.
Votre mari a été atteint d'une balle au front. Il ne souffrit pas et conserva un visage calme. Nous nous étions promis mutuellement d'avertir notre famille en cas de malheur.
Mais alors Samuel, pourquoi a-t-on attendu cette cérémonie pendant un siècle ?
Parce que comme 700 000 poilus morts sur le front français, le corps de Ferdinand Guerre a disparu, enseveli par les combats incessants. Il restait ses lettres et une famille dans le doute depuis 3 générations. Jusqu'à ce qu'en 2018, des travaux mettent au jour, comme souvent, des restes de soldats avec un casque Adrian troué au front. Mais pas de plaque d'identification. Et là, c'est un bénévole de l'association de la main de Massige, Emmanuel Bujon, qui n'a pas lâché l'affaire.
En tout et pour tout, j'y ai passé 2 ans. Quoi. Donc y retourner régulièrement. 2 ans, ouais, 2 ans. À espérer, quoi. Je sais pas. L'histoire était trop belle pour que ça s'arrête là, quoi. En espérant toujours trouver, comme je dis, le Graal, cette pièce qui manque au puzzle, qui puisse identifier le corps, mettre un nom, un prénom, une photo, pour être là aujourd'hui, lui rendre hommage et qu'enfin, plus de 100 ans après, que la famille puisse faire son deuil.
Après le seul orage de l'été torride de l'année dernière, Emmanuel Bujon a retrouvé sur la craie blanche de Champagne lavée par la pluie, la plaque ovale qui identifie le soldat Guerre et 2 pièces en or des Napoléons qu'il avait cousues au revers de son gilet en 4 coups durs. Le copain Guy Berthaud expliquait dans sa lettre à la veuve qu'il n'avait pas pu récupérer ces pièces dont Ferdinand lui avait confié le secret. Emmanuel Bujon nous a raconté qu'il avait les mains qui tremblaient le jour de la découverte et il a confié ces objets précieux à Maryse Berger, la petite fille de Ferdinand Guerre, venue enterrer son grand-père enfin retrouvé, dont elle a tant entendu parler.
Par maman, elle parlait toujours de son papa et puis elle voulait savoir où il était mort. Et malheureusement, elle n'a pas pu puisqu'elle est partie avant.
Quand on vous appelle pour vous apprendre ça ?
On s'est mis à pleurer avec mon mari. On était tellement heureux. Parce qu'on avait de l'espoir, mais un tout petit.
Est-ce qu'on peut dire que vous avez enterré votre grand-père ?
Oui, aujourd'hui, oui. 106 ans après, oui, mais j'attendais qu'on le retrouve. Ça y est, maintenant c'est fait. Il a sa sépulture. Je ne me poserai plus de questions. Maintenant, c'est fini.
Samuel, on entend que malgré ces décennies qui sont passées, les soldats disparus hantent encore leur famille.
Oui, le doute, le terrible doute, les ronges de génération en génération. C'est pour cela que Éric Marchal, le président de l'association, et tous les bénévoles de la main de Massige s'acharnent autant quand ils retrouvent des restes de soldats, même un siècle après.
C'est vieux, oui et non. Regardez, la dame, c'est son grand-père. C'est pas vieux, c'est avant-hier, c'est encore récent. Grand-père, c'est, on a tous un grand-père, donc pour cette dame, c'est très récent. L'histoire, elle la touche, là.
D'autant que sur les 10 poilus mis au jour depuis 2008 ici, seuls 2 d'entre eux ont pu être formellement identifiés. Ferdinand Guerre a désormais sa croix avec son nom et sa place dans la nécropole du Pont de Marçon.
Ferdinand Guerre, 106 ans après votre disparition, vos descendants peuvent enfin se recueillir sur votre sépulture.
On a donc retrouvé le soldat Guerre, c'était l'événement d'RTL ce matin du 11 novembre 2021. Merci beaucoup Samuel Goldschmidt.
RTL Matin, Yves Calvi.
Mais bonjour Anthony Martin.
Bonjour et bonjour à tous.
Voilà, c'est l'heure de découvrir notre pépite musicale du jour, on vous écoute.
On y va, on va démarrer avec 7 chansons de Bob Dylan.
Who killed Davy Moore? Why? What's the reason for?
Who killed Davy Moore? Qui a tué Davy Moore? Chanson de 1963. Le boxeur Davy Moore venait de mourir 2 jours après un choc subi lors d'un combat et Bob Dylan a écrit son texte comme une pièce de théâtre. Dans chaque couplet, un personnage différent présente ses alibis et rejette la faute sur l'autre. On entend ainsi dans la seule voix de Dylan l'arbitre, la foule, le manager, le journaliste et l'adversaire. Bernard Lavillier a eu l'idée de reprendre la version française qu'en avait fait Graham Allwright dans les années 60 et de coller au plus près du scénario en invitant à ses côtés quatre autres voix pour jouer les personnages. On démarre, l'arbitre c'est Gaëtan Roussel.
C'était pas moi, je suis l'arbitre, pas moi. Ne me montrez pas du doigt, bien sûr j'aurais peut-être pu le sauver. Si au huitième j'avais dit assez, mais la foule aurait sifflé. Ils en voulaient pour leur argent, tu sais. C'est bien dommage, mais c'est comme ça. Y'en a d'autres au-dessus de moi. C'est pas moi qui les fait tomber, vous ne pouvez pas m'accuser.
Qui a tué David Moore? Qui est responsable et pourquoi es-tu mort?
C'est pas moi, je suis son manager. Je finis mon cigare, j'ai pas peur. C'est difficile à dire, à expliquer. J'ai cru qu'il était en bonne santé.
Bernard Lavillier joue le manager. On complète le casting. Izia Higelin interprète la foule. Puis on l'entendra ensuite dans l'extrait. Eric Cantona joue le rôle du journaliste.
Bah voyons.
Et quand ça bat, on trouve ça bien. Mais vous savez, on n'y est pour rien. C'est pas nous qui l'avons fait tomber. On ne pouvait pas nous accuser, non.
Qui a tué David Moore? Qui est responsable et pourquoi est-il mort? Qui a tué David Moore?
Ce n'est pas moi, je suis journaliste à la tribune. Je tape mon papier pour la une. La boxe n'est pas en cause, tu sais. Dans un match de foot, il y a autant de dangers. La boxe, c'est une chose saine. Ça fait partie de la vie américaine. C'est pas moi qui les fait tomber. Vous pouvez pas m'accuser.
Qui a tué David Moore? Qui est responsable et pourquoi est-il mort?
Qui a tué David Moore?
Et cette voix, c'est celle du nouveau talent Hervé qui interprète l'adversaire. Voilà le casting, c'est pas mal, hein, Bernard Lavillier, Izia Higelin, Eric Cantona, Gaëtan Roussel et Hervé réunis pour chanter à 5 du Bob Dylan. Ils ont enregistré au printemps dernier ensemble à Saint-Rémy-de-Provence. C'est une nouveauté, c'est même une avant-première, puisque Qui a tué David Moore sera une des curiosités du nouvel album de Bernard Lavillier qui sort demain.
Qui a tué David Moore? Qui est responsable et pourquoi est-il mort?
Merci beaucoup Anthony. Bernard Lavillier s'est confié à Stephen Bellery. Il nous présentera son nouvel album tout à l'heure à 9h dans Laissez-vous tenter. On en découvrira le très large verset. Ça nous a bien plu hein, cette chanson.
Ah ouais, ça m'a plu moi.
Bon bah vous êtes là, on va parler brouillard dans quelques instants. Oui, c'est. Et auparavant ça. On aura fait un petit tour du côté de nos grosses têtes, ce qui nous fait toujours beaucoup de bien sur RTL. Passez une très bonne journée, il est 7h26. Merci d'écouter notre radio.
RTL Matin.
Dans nos grosses têtes qu'on retrouve cet après-midi dès 15h30. Eh oui, avec notamment aujourd'hui un sociétaire que nous aimons beaucoup, Yoann Rioux. Il est un peu en rondeur ce garçon.
C'est vrai que vous n'êtes pas très grand. Vous mesurez combien, monsieur Rioux?
1,60.
1,60. Ah oui, c'est
vous pouvez l'appeler Yoann, hein, Laurent.
1,60 de hauteur ou de largeur?
Alors 104 kilos, 1m60.
C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin des images. Quand il commente le foot, c'est lui qu'on voit. Le ballon est au centre.
Le ballon.
Franchement, en me levant ce matin, je pensais pas qu'on allait rigoler autant.
Bah oui, ça c'est sûr.
Et
bah
nous non plus.
Hey Johan.
Oui, monsieur Mabi.
Johan, est-ce que vous avez vu le film Le Dîner de con?
Oui.
Non.
Ouais, mais le con, il gagne à la fin.
Ah, bravo.
Très en forme, et Yoann Rioux est un personnage tout à fait sympathique. Allez, rendez-vous dès maintenant sur publicrtl.fr pour vous inscrire et assister à l'émission dans le grand studio RTL que vous retrouverez donc cet après-midi dès 15h30 autour de Laurent Ruquier. Louis Bodin, oui. On va vous écouter pour notre point météo. On parlait brouillard hein, il y a
oui.
quelques instants.
Oui, vous avez bien fait de parler de brouillard parce qu'alors il y en a partout dans la moitié nord, à Alençon, Évreux, Chartres, Auxerre, Saint-Quentin, dans l'Aisne, Charleville-Mézières, à Reims, à Épinal, à Belfort et encore, ma liste est loin d'être exhaustive. Hein. Toute la moitié nord, mais méfiez-vous, si vous partez dans quelques instants, vous allez tomber sur des bandes brouillard denses, hein, parfois moins de 100 mètres de visibilité. Pendant ce temps-là, dans la moitié sud, on a beaucoup de nuages et quelques pluies qui sont montées plus loin que prévu, hein, jusque sur le massif central, le Limousin. Mais tout ça devrait se calmer ce matin, en tout cas pour la moitié sud. Du coup, les pluies vont régresser vers la Méditerranée, Languedoc-Roussillon, Côte d'Azur, Corse. Là, nous aurons encore des averses, mais normalement ailleurs, on va retrouver du temps sec avec même de très belles éclaircies, y compris dans la moitié nord, où normalement, Je reste prudent, hein. Les brouillards devraient se lever et donc permettre au soleil de s'imposer. Il y aura toujours ici ou là une petite plaque qui va résister, je pense à la vallée de la Saône peut-être, ou encore dans l'Ouest, mais globalement retour du soleil. Quelques nuages quand même persisteront près de la Manche, et puis attention, un peu de neige hein, prévu dans les Pyrénées orientales ou encore sur les Alpes du Sud, dès 2000 mètres. Tout ça avec des températures. Bah ça gèle hein, ce matin. Dans toute la moitié nord, on est souvent entre 0 et moins 2 degrés. C'est positif dans le sud. Et cet après-midi, 8 à 12 degrés dans la moitié nord. C'est un peu en dessous des moyennes de saison. 12 à 14 en Bretagne et en Normandie. Et 15 à 20 degrés dans la moitié sud. Là, ça remonte un petit peu par rapport à hier.
Moi, j'ai bien aimé ce petit coup de fraîcheur ce matin pour venir à la radio. Mon scooter me disait qu'il faisait 4 quand je suis venu.
Mais dans Paris, hein, on a eu 0 degré 6 au plus bas quand même dans Paris. On a frôlé la gelée. Dans Paris, on était à 0 degré 6.
Et bien voilà, la fraîcheur s'installe. Excellente journée à l'écoute d'RTL, il est
7h30. RTL Matin, Yves Calvi.
7h30, Tout Info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce jeudi 11 novembre. Bonjour Isabelle.
Bonjour Yves, bonjour à tous. Do you love le Made in France?
Yes.
Apparemment, not that much. Le salon du Made in France ouvre aujourd'hui à la porte de Versailles à Paris. Plus de 800 entreprises sont représentées. On attend 80 000 visiteurs. Mais dans les faits, Pierre Herbulot, près de 90% de ce qu'on achète est toujours fabriqué à l'étranger.
Oui, et encore, les chiffres sont gonflés par l'alimentation très majoritairement française. Prenez le textile, par exemple. 97% des vêtements vendus en magasin viennent de l'étranger. 12 000 emplois perdus dans cette industrie en 40 ans. Même pauvreté pour le secteur pharmaceutique. 8 médicaments remboursés sur 10 viennent d'Asie. C'est pire encore pour l'horlogerie, carrément sinistrée. La production française ne représente qu'un tout petit pourcent des ventes. Pour autant, la tendance est au mieux ces dernières années. Il y a eu en 2020 plus de relocalisation que de délocalisation d'entreprises dans les jouets, l'informatique ou encore l'habillement, pour une raison simple. Les enquêtes d'opinion montrent que le Made in France jouit d'une excellente cote de popularité. Il est synonyme de qualité et d'éco-responsabilité.
Pierre Herbulot du service économie d'RTL.
Le verdict est donc tombé hier soir au procès du meurtre de Mireille Knoll.
Yacine Mehoub est condamné à la réclusion à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. Le caractère antisémite du crime a été retenu. Son ami Alex Karabakus a été acquitté pour le meurtre mais reconnu coupable de vol et d'incendie. Il écope de 18 ans de prison avec une peine de sûreté des deux tiers. Satisfaction pour le fils de la victime, Daniel Knoll.
J'attendais ce verdict depuis longtemps. Il est à la hauteur de mes espérances et je vais peut-être pouvoir enfin faire mon deuil.
La justice en France, ce n'est pas rien à un moment aussi difficile pour nous. Ma mère, quelque part, est un petit peu vengée, un petit peu. Et enfin, on va peut-être nous sentir un peu plus libres.
Alain et Daniel Knoll au micro RTL de Guillemette Franquet. Lisa Pinto a retrouvé sa famille hier. Cette jeune fille de 17 ans a disparu pendant 24 heures en Mayenne, affirme qu'elle a été enlevée par deux individus dans une camionnette verte et qu'elle a réussi à s'enfuir. Elle a été retrouvée vivante mardi soir à Sablé-sur-Sarthe, à une dizaine de kilomètres de chez elle. Cet automne ressemble clairement au début d'une cinquième vague épidémique. C'est ce qu'a dit Olivier Véran hier soir sur TF1. Le ministre de la Santé a apporté des précisions sur la campagne de vaccination pour la troisième dose, désormais indispensable pour les plus de 65 ans. Elle sera bientôt ouverte aussi aux plus de 50 ans. Mais sera-t-elle nécessaire pour garder son pass sanitaire? Olivier Véran reste évasif.
Ce qui est fondamental, c'est qu'à partir du moment où on considère que vous n'êtes plus suffisamment protégé lorsque vous êtes au-delà de 6 mois de vaccination et que vous avez 50 ans, il est logique de se poser la question. Ce que je dis, c'est que la question ne se pose pas aujourd'hui. Pour l'instant, nous allons ouvrir progressivement la vaccination aux 50 ans et plus. Je ne tranche pas encore le sujet, mais c'est une question légitime.
Et en Allemagne, l'épidémie repart très très fort. Plus de 50 000 nouvelles contaminations en 24 heures, du jamais vu depuis le début de la pandémie. À la COP26 à Glasgow, la Chine et les États-Unis ont annoncé hier un accord surprise. Les deux premiers émetteurs mondiaux de gaz à effet de serre s'engagent à faire plus pour lutter contre le réchauffement. Un compromis qui relance les espoirs à deux jours de la fin de la conférence.
Il est 7h33, nous sommes donc le 11 novembre, une journée en mémoire de la Première Guerre mondiale, mais aussi cette année de la Seconde.
Oui, comme chaque année, on célèbre l'armistice de 1918, mais Emmanuel Macron va aussi rendre hommage à Hubert Germain, le dernier compagnon de la Libération, décédé le mois dernier à l'âge de 101 ans. Son corps va être transféré au Mont Valérien. Hier déjà, le public pouvait se recueillir aux Invalides.
J'avais beaucoup d'émotions lorsque je me suis trouvé devant le cercueil et pour moi c'est tout à fait normal de venir rendre hommage à des gens qui ont sacrifié leur vie pour que nous puissions vivre libre aujourd'hui.
On doit en fait à ces hommes notre liberté, cette chance qu'on a de vivre en France.
C'est un héritage vivant.
Vous craignez que cette flamme s'éteigne un jour ?
Non, elle ne peut pas s'éteindre.
Un propos recueilli pour RTL par Brice Dugénie. Le foot et ce soupçon de règlement de compte dans l'équipe féminine du PSG. La joueuse Aminata Diallo est en garde à vue depuis hier, suspectée d'avoir organisé l'agression de sa coéquipière Keira Amraoui la semaine dernière. Des inconnus avaient intercepté sa voiture et l'avaient frappée au niveau des jambes avec une barre de fer. Diallo était présente mais n'avait pas été blessée. Sur le terrain, c'est Lyon qui jouait hier en Ligue des Champions et les Lyonnaises se sont imposées face au Bayern Munich 2-1. Elles sont quasiment assurées d'une qualification pour les quarts de finale.
Et puis on va maintenant vous faire entendre une femme formidable.
Elle s'appelle Jacqueline, elle habite dans les Deux-Sèvres, elle a 100 ans, ce qui ne l'a pas empêchée de tenir un bureau de vote lors des dernières élections régionales. À l'époque, l'équipe d'On défait le monde sur RTL l'avait interviewée et lui avait demandé si elle aimerait être reçue par Emmanuel Macron. Elle avait dit oui. Et bien visiblement, c'est arrivé jusqu'aux oreilles du président. Jacqueline a été reçue à l'Élysée lundi.
J'ai été reçue d'abord par 14 messieurs en noir et chemise blanche qui m'ont accompagné dans les 12 pièces de l'Élysée qui m'ont été commentées. Et une heure et demie après, donc le président m'a donc appelé. Il m'a dit bonjour, je vous remercie, il m'a dit moi aussi. Et on s'est assis, puis il me dit alors qu'est-ce qu'on se raconte maintenant? Alors voilà, on s'est raconté des tas de choses, hein, sur le Covid, sur les enfants. J'ai dit, je vais vous poser une petite question indiscrète. Est-ce qu'avec tous vos soucis, vous dormez? Alors il a ri. Il a dit, je me couche très tard, je me lève très tôt, mais je dors beaucoup entre les deux. Et là, il m'a emmené par le bras, et puis il m'a emmené dans son bureau. Et on a pris la photo.
Jacqueline au micro RTL de Laurent Tessier est absolument formidable, on la salue.
C'est un bonheur de l'entendre. Oui, absolument. Nous, on va se retrouver à 8h40 pour la face cachée de la Une.
Oui, Isabelle et Choquet. Nous allons découvrir la nouvelle arme fatale des urgentistes pour sauver des vies.
Merci beaucoup Isabelle. À tout à l'heure, donc 8h40. Dans un instant, François Langlais et la fin des patrons superstars sur notre antenne.
Rire ensemble sur RTL.
Et il vous manquait les Simpsons en fait, tout simplement. Oh merde. Excusez-moi, j'ai fait marre.
On est bien sur RTL. Le matin, Yves Calvi.
Il est 7h38, Langlais Co avec vous, François Langlais.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Cher François, une icône de l'industrie américaine est sur le point de disparaître.
Oui, c'est en effet General Electric, qu'on appelle par ses initiales en anglais GE. C'est un industriel créé pendant la révolution industrielle de l'électricité, vous savez, née aux États-Unis, c'est-à-dire à la fin du 19e siècle. Et au fil de l'électrification de l'économie américaine et des foyers américains, GE était devenu l'une des entreprises et des marques les plus réputées au monde. Ronald Reagan, à l'époque où il était acteur de cinéma, pas encore président des États-Unis, avait d'ailleurs joué dans des pubs télé pour des produits GE. Le conglomérat s'est ensuite diversifié dans la finance, dans l'aéronautique, il fabrique des moteurs d'avion et dans l'énergie également, par exemple en rachetant la branche turbine du français Alstom.
Mais alors qu'est-ce qui lui arrive aujourd'hui?
Écoutez, le groupe va s'auto-dissoudre en se scindant en trois entités distinctes, l'une métier de la santé, l'autre ceux de l'énergie, et la troisième ceux de l'aéronautique. L'actuel patron suit la voie des autres grands conglomérats industriels plus que séculaires, Toshiba au Japon, Siemens en Allemagne, IBM aux États-Unis, qui tous accentuent leur recentrage. Toutes ces entreprises étaient nées des nouveaux métiers d'électricité, c'était en fait les start-up du 19e ou du début du 20e siècle. Et puis, au fil des ans, elles se sont énormément développées avec beaucoup de succès. Elles ont pris pied sur d'innombrables métiers. Elles sont devenues des monstres ingérables, dépassées dans l'innovation par les entreprises plus rapides, plus flexibles et souvent plus petites.
Alors François, ça pose une question. Est-ce que ça veut dire que c'est la fin en fait du modèle du conglomérat?
Je ne pense pas. Oui. Regardez, Tesla, Google ou Amazon, eux aussi sont des conglomérats. Ils multiplient les incursions sur de nouveaux secteurs. Tesla, c'est le spatial. Google, l'intelligence artificielle. Amazon, c'est la santé, le divertissement. Ce sont les conglomérats des temps modernes. Eux aussi, un jour, seront probablement paralysés par la bureaucratie et la croissance, aveuglés par l'arrogance et puis dépassés par de nouveaux entrepreneurs.
Alors ça veut dire quoi? Que ces cycles, d'une certaine façon, sont inévitables?
Oui, je pense, parce que le succès mène souvent à l'aveuglement, qui lui-même mène souvent aux difficultés. Regardez IBM, c'était l'inventeur de l'informatique au début du 20e, et il s'est fait sortir du secteur par deux jeunes inventeurs, Steve Jobs et Wozniak, les créateurs d'Apple. Chez General Electric, l'heure de l'arrogance, c'était les années 80 et 90, quand l'entreprise était dirigée par Jack Welch. Il était considéré comme le meilleur patron du monde. General Electric valait alors 600 milliards de dollars en bourse. Bah, c'était l'équivalent de Tesla d'aujourd'hui. Oui. Et Jack Welch faisait, comme Elon Musk, le patron de Tesla, la une de tous les magazines économiques du monde.
Bah alors là, évidemment, on a envie de vous poser une question. Comment ça s'est fini, tout ça?
Ben mal, oui. Comme toujours quand il y a un patron idolâtré, ah oui. parce que non seulement il n'y a plus de contre-pouvoir dans la direction de l'entreprise, mais souvent on cache au patron les vraies difficultés. Le successeur de Jack Welch, quand il a ouvert les placards, il a tout pris sur les pieds. Parce que le bilan d'un patron, il est souvent trompeur au moment de son départ. L'évaluation ne peut se faire que 18 mois ou 2 ans plus tard, le temps que se révèle ce qui dure en bien. Comme en mal. Depuis le départ de Jack Welch, il y a 20 ans, General Electric a vécu un long purgatoire qui la laisse aujourd'hui avec une valeur 5 fois plus faible qu'à l'époque. Mais peut-être cette scission lui permettra-t-elle de commencer un nouveau cycle de croissance et de réussite.
Ah bah c'était très intéressant. La vie de nos très grandes entreprises. Merci beaucoup François Langlais. Je vous dis à demain. Alors, bon bah je vous prescris une petite tisane de thym. Vous pouvez mettre un peu de citron, voilà, pour la vitamine C. Hein, pas trop, parce qu'il ne faut pas que ça soit acide. Et puis un peu de miel. Je suis sûr que vous avez un bon miel corse, par exemple. Vous voyez ?
Merci, docteur Calvi.
Ça vous va ? À demain, je vous en prie. La prescription est gratuite. Il est 7h42. Bonjour Alba Ventura.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Votre invité ce matin.
Eh bien, hommage à nos soldats ce matin. Je reçois le caporal-chef Manuel Cabrita qui a enchaîné les missions du Tchad au Kosovo en passant par la Côte d'Ivoire et l'Afghanistan et qui a été gravement blessé au Mali il y a 4 ans au cours de l'opération Barkhane.
A tout de suite sur RTL avec le caporal-chef Manuel Cabrita.
RTL Matin avec Yves Calvi.
Il est 7h43, excellente journée à vous tous qui nous écoutez en ce 11 novembre. Alba Ventura, vous recevez ce matin le caporal-chef Manuel Cabrita.
Bonjour caporal-chef Manuel Cabrita et merci d'être avec nous en ce 11 novembre.
Merci.
En ce jour où nous saluons l'engagement de tous nos soldats et de tous ceux qui sont morts pour la France. Alors Manuel Cabrita, vous avez 39 ans, vous appartenez à la 5e compagnie du régiment médical et il y a plus de 4 ans, dans le Nord-Mali, vous avez été victime d'un engin explosif. Vous avez perdu une jambe, un avant-bras. Que s'est-il passé ?
Oui, tout à fait, c'est bien ça. Alors ce jour-là, nous étions en opération dans le nord du pays. Et lors d'un redéploiement, j'étais au volant d'un engin blindé et j'ai roulé sur une mine artisanale, ce qu'on appelle les engins explosifs improvisés. Et du coup, ce jour-là, il y a eu l'explosion et ça a été l'enchaînement de plusieurs choses.
Vous êtes donné pour mort ?
Tout à fait. Oui, dans ces cas-là, en général, malheureusement... On l'a vu récemment, on perd beaucoup de d'hommes sur ce mode de procédé. Moi, j'ai énormément de chance. Beaucoup de gens me considèrent comme un miraculé. Moi, je préfère dire que je suis simplement le fruit d'une chaîne santé qui fonctionne. On a un service de santé des armées qui est vraiment exceptionnel et j'en suis la preuve. Puisque, effectivement, ouais, mon état était vraiment très, très, très critique.
Là, vous êtes inconscient ?
Non.
Vous êtes conscient ?
Moi, lors de l'explosion, je suis resté conscient. J'ai sorti mon garrot, j'ai essayé de faire ce qu'il fallait, puisque moi, à la base, j'ai une fonction de sauveteur au combat. Donc, du coup, ça m'a beaucoup aidé à ce moment-là.
Mais, pardon, vous savez que vous avez perdu votre jambe et un bras ?
Alors, immédiatement, c'est vrai que dès l'instant où il y a eu l'explosion, très franchement, l'esprit est bizarre parce que je me suis cru à l'entraînement. Je m'attendais à ce qu'il y ait une voix extérieure qui dise « Ok les gars, c'est raté, on recommence ». Comme si on était à l'entraînement en France où on drille le travail. Et en fait, pas du tout. J'ai réalisé que c'était la vraie vie. Donc là, tout de suite, j'avais énormément de sable, de poussière dans les yeux. Et je me suis imaginé tout de suite aveugle. Ça a été ma première réaction sur mon état physique. Ça a été « Ok, je suis aveugle ». Pardon. Au moment où le sable a commencé à s'estomper, là, j'ai ouvert les yeux et j'ai réalisé que j'avais plus de bras. Donc là, tout de suite, j'ai sorti mon garrot. Et ça a été très compliqué parce que je voyais que je n'avais plus de bras. Mon avant-bras n'était plus là. Mais j'essayais de mettre mon garrot quand même comme si j'avais encore la main. Donc en fait, j'étais dans le vide. C'était un peu bizarre. Alors tout de suite, mon réflexe a été de sortir du véhicule pour signaler ma présence à mes camarades. Surtout qu'en plus, le véhicule était en feu. Donc bizarrement, les flammes m'ont fait très peur, je vous l'avoue. Ouais. Et du coup, j'ai essayé de sortir de ce véhicule. Et je pense qu'il s'est bien écoulé bien 2 minutes. Pourtant, c'était très long dans mon esprit. Et là, je me suis dit, mais il faut que je crie, il faut que je leur dise que je suis là, quoi. Parce que, en fait, ce qui est étonnant, ce qui est hallucinant, c'est que d'un coup, il n'y a plus de bruit. Et en fait, je me suis dit, il faut que je crie pour leur dire que je suis là. Et là, il y a deux gaillards qui m'ont saisi, qui m'ont extrait du véhicule.
Et donc là, on vous rapatrie immédiatement.
Alors là, dans un premier temps, il y a un hélicoptère qui vient me chercher sur la zone d'explosion. Après, il y a l'équipe de chirurgiens militaires qui m'opère pendant plus de 9 heures en plein milieu du désert. C'est hallucinant. Ouais. Dans des conditions d'hygiène comme celles qu'on peut trouver en France. C'est vraiment exceptionnel. Ensuite, effectivement, j'ai été rapatrié en service de réanimation à l'hôpital militaire de Percy, à Clamart. Mmh. Et entre l'explosion et le moment où je suis arrivé en réanimation, il s'est écoulé seulement 24 heures.
Caporal-chef Cabrita, au bout de combien de temps vous comprenez que la guerre au Sahel, que vous ne pourrez plus aller en mission, que c'est terminé ?
À mon réveil en réanimation.
Vous avez tout de suite compris ?
Oui. En fait, ce qui s'est passé, c'est, étant donné que je n'ai pas perdu connaissance lors de mon explosion, je savais pour mes amputations, je savais que j'avais plus de bras, j'avais plus de jambes. Ce qui fait que lorsque je me suis réveillé en réanimation à Percy, au moment où le médecin veut m'annoncer qu'il me manque un bras et une jambe, je l'arrête tout de suite, je ne parle pas à ce moment-là. J'ai un blocage, je ne parle pas, mais je lui fais le geste avec ma main gauche qui me reste. Je lui montre, je lui désigne du doigt mon pied et ma jambe et je lui fais signe de la tête en lui disant « je sais ». Et à ce moment-là, on sait déjà que pour nous, on est hors jeu.
Alors, malgré ce terrible accident, vous avez réalisé un de vos rêves. Emmanuel Macron vous emmène à Moscou pour la finale des Bleus de Didier Deschamps. Vous avez rencontré comment le président ?
Alors, en fait, je l'avais déjà rencontré un petit peu avant, lors de la Journée nationale des blessés de l'armée de terre, qui se déroule tous les ans au mois de juin. Et c'était une rencontre d'un chef des armées et de son soldat, tout simplement. Tout ce qu'il y a de plus officiel, ça s'était très bien passé. Et en fait, quelques jours plus tard, lors de son discours aux armées à l'hôtel de Brienne...
Le
13 juillet, chez la ministre des armées, je le revois. À l'issue de son discours, il vient nous voir. Nous étions une dizaine de blessés. Et puis, il me reconnaît. Et à un moment donné, dans la discussion, j'ai pris mon courage à deux mains et je lui pose une question. Je lui demande simplement, Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez faire passer un message aux joueurs de l'équipe de France, pour moi, s'il vous plaît ? Il me dit, bien sûr. Tout simplement, je lui dis, est-ce que vous pouvez les remercier parce qu'ils arrivent encore à faire vibrer un homme à qui il manque la moitié du corps ? Et là, il me regarde en souriant et me dit, vous voulez leur dire ? Alors là, tout de suite, je lui dis, très franchement, à part leur enregistrer une vidéo pour le dire et leur montrer, je ne vois pas comment. Et là, il me dit, vous voulez m'accompagner ? Et voilà le Graal.
Et alors, il s'est passé quelque chose. Donc, vous avez accompagné le président Macron à Moscou, mais vous avez aussi accompagné le président dans les vestiaires de l'équipe de France. Et le président vous a présenté aux joueurs.
Tout à fait.
Et les joueurs ont fait quasiment la hola pour vous.
La grande surprise, ça a été justement de pouvoir aller fêter la victoire avec les joueurs de l'équipe de France dans leur vestiaire. Et je vous avoue qu'à ce moment-là, on a un petit enfant qui rêve et on se dit, oh, mon Dieu, si la Coupe du Monde est posée sur la table au milieu du vestiaire, je vais oser pouvoir mettre le doigt dessus, ne serait-ce que pour la toucher. Et quand en fait je suis arrivé et qu'ils me l'ont donné dans les mains, ça a été fou.
On voit sur une vidéo tournée par Paul Pogba, je crois.
Tout à fait.
Didier Deschamps qui vous prend dans les bras.
Oui, Didier Deschamps, pour moi, c'est le grand maître du football français. Il a un palmarès que personne n'a égalé. Il a remporté deux Coupes du Monde, ce monsieur. Pour moi, c'est le meilleur des meilleurs. Et en fait, il représente la France à l'international depuis des années. C'est un exemple pour tous. Et c'est vrai que c'est une personne que j'admire énormément. Et quand il m'a pris dans ses bras, ça a été énorme.
Vous aussi, vous êtes un exemple pour tous. Pourquoi vous avez choisi l'armée à 18 ans ?
Alors moi, j'ai choisi l'armée parce que j'avais seulement 18 ans, j'ai assisté impunément, comme beaucoup de personnes, à l'attaque des tours du World Trade Center. Et j'avoue qu'à 18 ans, j'étais une personne qui se demandait un peu ce qu'il allait faire de son avenir. Je n'avais pas vraiment de rêve, j'avais pas vraiment d'ambition non plus. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est pas possible, on peut pas laisser faire ce genre de choses. J'ai ressenti vraiment le besoin de contrer ça, de servir et de défendre notre nation, en fait. Pour moi, il est inconcevable qu'on se fasse attaquer quand on boit un coup sur une terrasse. Et du coup, j'ai poussé les portes d'un centre de recrutement et de fil en aiguille, je me suis engagé. Ça a été très vite, puisque les tours, c'était le 11 septembre. Je me suis engagé le 2 octobre.
Qu'est-ce que ça représente pour vous, caporal-chef, le 11 novembre ?
Le 11 novembre, c'est une journée Voilà, c'est le devoir de mémoire, c'est très important. Il faut commémorer nos grandes dates. C'est une page importante de notre histoire, de l'histoire de la France. Elle n'est pas seulement... Alors, c'est sûr qu'on commémore beaucoup les soldats morts pour la France. Et c'est normal, parce qu'ils sont partis... Ces hommes-là, ils sont partis chercher la liberté, ils ont trouvé la mort. Ils ont trouvé la mort pour nous offrir une liberté. Et c'est important de les commémorer tous les ans. Mais il ne faut pas oublier qu'une chose, c'est que certes, on commémore les soldats morts pour la France, mais il faut aussi... c'est une journée nationale, parce que cette guerre, elle a fait plus de 18 millions de morts d'infirmes et tout ça. Et dans les 18 millions, il y a 8 millions de civils. Donc la nation aussi a payé le prix fort. Et il ne faut pas oublier, comme je dis souvent, oublier, c'est prendre le risque de recommencer.
Dans le journal Le Monde, Thierry Burkhardt, qui est le chef d'état-major des armées, signe un papier, donner un sens à ce 11 novembre. Et il dit que cette date a une importance particulière. Elle fait le lien entre plusieurs guerres, plusieurs époques. Elle relie les combattants d'hier aux combattants d'aujourd'hui, car les vertus militaires perdurent au-delà du temps. Patriotisme, abnégation, don de soi, engagement collectif, courage et honneur jusqu'au sacrifice. C'est ce que vous ressentez aussi.
Tout à fait. Tout à fait.
Et c'est ce que vous faites, je crois, avec l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre, puisque vous allez dans les collèges et dans les lycées.
Oui,
qu'est-ce que vous leur racontez aux gamins ?
C'est un témoignage, comme je suis en train de le faire actuellement. C'est un échange. Alors, je raconte mon histoire. Et puis, si parmi eux, il y a 2-3 personnes qui veulent me poser des questions, je suis ouvert à tout. Et voilà, moi, le devoir de mémoire est très important. Je refuserai jamais une communication avec qui que ce soit.
Un grand merci, en tout cas, caporal-chef Manuel Cabrita.
Merci à vous, vraiment.
Il a perdu un bras et une jambe au Mali, l'extraordinaire témoignage du caporal-chef Manuel Cabrita. Quel courage, quelle simplicité, Alba Ventura. Vous avez accueilli aujourd'hui un héros infiniment humain en ce 11 novembre. Ce témoignage est bien entendu à retrouver comme chaque jour sur le site rtl.fr. Et Philippe Cavrivière est avec nous dans un petit instant sur RTL. Bonne journée à tous.
RTL, l'œil de Philippe Cavrivière.
Il est 7h55. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Bah oui, on vous retrouve Philippe Cadrivière. On vient d'entendre une interview très émouvante et très forte du caporal Manuel Cabrita en ce 11 novembre, jour anniversaire de l'armistice.
Et jour férié. Enfin, pas pour nous, visiblement, car nous avons entendu le message de Macron, le président sortant qui veut être président restant. Il faut bosser plus. Alors nous, on est au boulot.
Ah bah oui.
Nous sommes le 11 novembre. Traditionnellement, un jour froid, un jour triste, un jour gris. Et Mossad. Si le 11 novembre était une personne, ce serait Michel Barnier.
Oh non.
Alors, on a tous en tête ces images sépia de la fin de guerre, la France détruite sortant de l'apocalypse, des Français hagards errant dans les décombres. Bref, la France ressemblait à un immense Sochaux.
Il manque plus que les tickets de rationnement. Alors, on revient sur cette annonce d'Emmanuel Macron. Les demandeurs d'emploi qui ne démontreront pas une recherche active verront leur allocation suspendue, je cite.
Attention, la chasse aux feignasses est ouverte. Après Covid tracker, chômeur tracker. Manu, il a durci le ton. Et si ça continue, le gouvernement va envoyer le GIGN pour neutraliser les glandeurs qui se la coulent douce. Avec leurs allocs. Et d'où qu'elles viennent, leurs allocs ? Des sous de notre argent ? Bouge pas, Jean-Claude ! Lâche cette télécommande et ce paquet de chips ! Alors comme ça, ça glande au lieu de chercher du boulot ? Tu connais le tarif ? Pour les branleurs, c'est Taser !
Oui,
bah c'est du bruitage de 11 novembre. Bah on a fait avec ce qu'on a trouvé. Alors, vu comme ça, c'est un peu sévère, mais attention, les chômeurs ne sont pas complètement inutiles. Ah. Ils aident à maintenir les audiences de France Télévisions en début d'après-midi. En particulier, de Ça commence aujourd'hui, de Faustine Bollard et d'Affaires conclues avec Sophie Davant.
Bah oui.
Alors, on peut se moquer sans risque, car à 7h56, le chômeur dort. Surtout un jour férié. Hein. Le chômeur ne se lève qu'à 11h, où il commence à boire de l'alcool bon marché. Et vers 11h30, il se retrousse enfin les manches pour taper sur sa femme et ses 11 enfants. C'est la journée type du chômeur. Oui, bah, je m'adapte. Hein. Il y a 35% des Français qui votent à l'extrême droite. Moi, je veux du like. Hein. J'ai plus le temps.
Alors, on va parler dans un instant de l'enlèvement de cette jeune joggeuse qui, heureusement, s'est bien terminée. Mais une autre disparition dans l'actualité vous a inquiété, Philippe.
Oui, ça n'est pas arrivé depuis plusieurs mois, mais depuis 48 heures, le petit Eric Z a totalement disparu de nos écrans. Un enfant a disparu. Il s'appelle Eric. Il est âgé de 63 ans et mesure 1m34. Il a été vu pour la dernière fois près de son domicile sur CNews. Il jouait avec ses camarades Yvan Rioufol et Jean Messia aux gendarmes et aux arabes. Si vous l'apercevez, n'agissez pas seul. Contactez Pascal Praud.
Alors, on espère le retrouver, évidemment. Oui. Revenons sur cette disparition qui s'est heureusement bien terminée. La joggeuse de 17 ans a été retrouvée vivante, on le rappelle.
Le sport, c'est bon pour la santé. Sauf, visiblement, quand vous êtes une jeune femme et que vous faites du jogging. Une fois de plus, l'actu nous donne un peu l'occasion d'avoir honte d'être un homme. Hein, c'est toujours aux femmes que ça arrive. Le jogger homme n'est jamais agressé sexuellement. Pardon, hein, mais c'est pas en voyant François Lenglet, Louis Bonin, Yves Calvi ou Cyprien passer transpirant en cycliste vert, basket orange et bandeau en mouche jaune que des jeunes femmes vont se dire « Vite, faut que je fasse l'amour à cette personne dans un bosquet !» Quels sont les risques pour le jogger homme? À part l'entorse et le malaise cardiaque, alors si... Ah. Une petite balle dans le luc d'un chasseur maladroit ou alcoolique.
Ça, ça existe.
Enfin, un chasseur. En fait, un chasseur, c'est un chômeur avec un fusil et un épagnol.
Bon, écoutez, vous savez que l'enquête se poursuit en Mayenne et on ne sait pas grand-chose, en fait, pour l'instant. Hein.
Non, ce que l'on sait avec certitude, Yves, c'est que ces ravisseurs sont vraiment des salauds. La pauvre fille partait en courant sûrement pour quitter la Mayenne. Et du coup, pas de bol, les flics l'ont ramenée chez elle.
C'est terrible. Dites-moi, on a appris qu'elle s'était réfugiée dans un kebab. Ça vous a marqué, ça?
Il y a moult incohérences dans cette affaire. Oui. Je ne veux pas faire le donneur de leçons, hein, mais aller au kebab après un footing, diététiquement, c'est idiot. Et ils l'ont laissé entrer sans passe sanitaire. Hein, oui. Elle n'avait pas son téléphone, donc j'espère que le kebab fera l'objet des sanctions qui s'imposent. Mais la grande question, c'est qui que c'est le ravisseur? La piste privilégiée mène à Jean-Luc Léa qui aurait relâché la jeune fille avec dégoût en apprenant que c'était une senior de 17 ans. Ça se tient pour l'instant.
Merci beaucoup.
Je vous en prie.
On vous retrouve bien entendu sur le site rtl.fr. Puis nous avons rendez-vous demain matin si vous le voulez.
Bah, on ne fait pas le pont, on est là.
Non, on ne fait pas
le pont. On n'est pas là pour faire les ponts, nous, ici. Hein.
Non. Bah, d'ailleurs, le Louis Baudin, on va le mettre au travail. Ah, ouais. Parlez-nous de notre météo, Charles.
Oui, avec beaucoup de brouillard ce matin dans la moitié nord. Prudence, hein, si vous devez prendre la route dans quelques instants. Des brouillards avec parfois moins de 100 mètres de visibilité. Dans le sud, on a des passages nuageux. Ah, bah oui, c'est le rhume. Avec des averses entre la Méditerranée et le Massif central, cet après-midi, ces averses concerneront le Languedoc-Roussillon, la Côte d'Azur et la Corse. Ailleurs, normalement, les brouillards devraient se lever, donc on aura du temps sec et très ensoleillé quasiment partout. Les températures dégelées dans toute la moitié nord ce matin et cet après-midi, 8 à 12 degrés dans la moitié nord, 12 à 14 degrés en Bretagne et Normandie et 15 à 20 degrés dans la moitié sud. Là, ça remonte un petit peu par rapport à hier.
Formidable, merci beaucoup Louis, merci à vous qui nous écoutez. RTL, il est 8h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, jalousie, rivalité et règlement de compte, l'affaire qui plonge les joueuses du PSG dans la tourmente.
Hier, l'une d'entre elles a été placée en garde à vue, soupçonnée d'avoir commandité la violente agression d'une autre de ses coéquipières. Tous les détails de cette sombre histoire à suivre. L'hommage au dernier compagnon de la libération, Hubert Germain, était un résistant. La France honore ce matin sa mémoire. Dans ce journal également, l'histoire d'un maire barricadé dans sa mairie. Il a verrouiller les serrures et personne ne peut entrer. Interdire la chasse le dimanche, la pétition lancée en septembre vient d'obtenir 100 000 signatures. Elle sera examinée au Sénat. Et puis nos sardines rétrécissent, plusieurs centimètres de perdu en 10 ans et des conséquences pour les pêcheurs. Nous vous expliquerons pourquoi.
Cyprien Signy, votre surf de l'info.
Bruno Le Maire, le serial auteur de la 5e République.
8h40, la face cachée de la une avec vous Isabelle Choquet.
On va parler des urgentistes de l'extrême et de leurs incroyables machines.
Et à 8h20, je recevrai Alain Bauer, le criminologue qui publie ses confessions gastronomiques, changement d'ambiance.
RTL Matin.
L'équipe féminine du Paris Saint-Germain se serait sans doute bien passée de cette affaire. Il y a une semaine, deux joueuses du club étaient victimes d'une agression. Parmi elles, Keira Amraoui, milieu terrain, violemment frappée dans les jambes à coups de barre de fer. À ses côtés, Aminata Diallo, sa coéquipière, son amie, dont on a appris hier qu'elle pourrait être en réalité celle qui a tout commandité, la joueuse, a été placée en garde à vue. Bonjour Julie Brault.
Bonjour.
La piste d'un règlement de compte, d'une rivalité entre les deux femmes est désormais privilégiée.
Oui, alors il faut savoir qu'on parle de deux femmes très proches. Elles partent en vacances ensemble, partagent le même casier dans les vestiaires, mais sur le terrain, elles sont bel et bien adversaires. Les deux joueuses évoluent au même poste, que ce soit au PSG ou en équipe de France. Aminata Diallo avait d'ailleurs remplacé Keira Amraoui lors d'un match le mois dernier. Des joueuses amies dans la vie donc, mais rivales sur le terrain.
Alors on le disait, elles étaient ensemble dans la nuit de mercredi à jeudi dernier au moment de l'agression. Comment l'une d'elles est passée de victime à suspecte?
Eh bien parce que les enquêteurs ont relevé plusieurs incohérences. La première, pourquoi, lors de cette agression, Aminata Diallo a été épargnée. Les agresseurs se sont acharnés à coups de barres de fer sur les jambes de sa coéquipière, alors que Diallo, elle, n'a pas été blessée. Deuxième question, pourquoi les agresseurs n'ont rien pris dans la voiture, ni portable, ni portefeuille? Après avoir roué de coups Kera Amraoui, ils ont tout simplement pris la fuite. Autre incohérence encore, c'est le trajet qu'a emprunté Aminata Diallo, car c'est elle qui était au volant de la voiture ce soir-là, et les enquêteurs soulignent un itinéraire inhabituel. Enfin, et c'est là que la notion de règlement de compte apparaît, les enquêteurs ont placé un proche d'Aminata Diallo en garde à vue ce matin, un homme incarcéré à Lyon, connu pour des affaires d'extorsion.
Et on sait le rôle que pourrait avoir joué cet homme ?
Eh bien, dans ce scénario, c'est lui qui a commandité l'agression depuis sa cellule. Les enquêteurs ont retrouvé des appels malveillants adressés à des joueuses du PSG, tous visés Kera Amraoui. Et ces appels, eh bien, ils bornent à proximité de la prison où cet homme est écroué. Alors, est-ce qu'il est impliqué ? Est-ce qu'Aminata Diallo a participé avec lui à une agression commanditée ? C'est toute la question de cette enquête qui ne fait que commencer.
Merci beaucoup, Julie Brault, pour toutes ces précisions.
Il est 8h03. La jeune adolescente de 17 ans a parti courir en forêt et retrouvée vivante mercredi soir, a pu rejoindre sa famille.
Lisa, c'est son prénom, affirme avoir été séquestrée par deux hommes. Elle évoque une camionnette verte, autant d'indices que les enquêteurs tentent toujours de vérifier. C'est elle qui se serait échappée, trouvant refuge dans ce restaurant kebab de Sablé dans la Sarthe. Le gérant était là. C'est lui qui a recueilli l'adolescente en état de choc. Il raconte la scène à Vincent Serrano.
On était en train de travailler, comme d'habitude. Il était à peu près 20h, 20h10. Elle s'est mise contre la boutique, contre la devanture, la vitrine. J'ai des clients qui étaient dehors. Il y a une cliente qui m'a dit c'est la jeune fille qui a disparu hier. Et suite à ça, je l'ai pris en charge. On lui a donné une veste pour qu'elle se réchauffe. Mais elle était juste choquée. Ça se voyait à sa tête. On l'a installée, on l'a mis derrière dans l'arrière-cuisine. On lui a donné une veste pour qu'elle se réchauffe. Et on l'a installée derrière. J'ai appelé la gendarmerie, les pompiers. Et tout le monde est arrivé assez rapidement. Il y avait beaucoup de monde, il y avait beaucoup de gendarmes. J'ai pas compté. J'étais content qu'elle soit là, qu'elle soit vivante.
Un document RTL recueilli par Vincent Serrano. François Hollande entendu comme témoin au procès des attentats du 13 novembre. C'est la première fois qu'un ex-président témoigne devant une cour d'assises. Il a défendu hier son bilan et sa guerre contre l'État islamique. « Nous avons fait tout ce que nous pouvions », a-t-il expliqué, mais nous n'avions pas, hélas, l'information décisive pour empêcher ces attentats.
RTL, il est 8h05. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit aujourd'hui en urgence alors que le ton monte entre la Pologne et la Biélorussie.
En cause, la présence de 3 à 4 000 migrants massés à la frontière derrière des barbelés et qui patientent dans des températures glaciales en espérant franchir les portes de l'Europe. Varsovie accuse le président Bélarus et Vladimir Poutine d'avoir tout organisé. On va rejoindre notre envoyé spécial Nicolas Burnand à quelques kilomètres de ce point de passage. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Vous avez croisé des hommes, des femmes, des enfants prisonniers du froid et d'une guerre politique qui les dépasse. Votre reportage, c'est le choix ce matin de la Brigade RTL.
Dans l'enfer de cette forêt, des silhouettes apparaissent parfois dans la nuit. Des migrants désorientés, perdus, traversent les villages pour se reposer jusque dans le champ de Yatchek. Cet habitant fait défiler des photos sur son téléphone portable.
Là, il y a des vêtements, des chaussures, des t-shirts, des bouteilles d'eau, des restes de nourriture. Ils se sont changés là, c'était des Irakiens malheureusement. J'ai appelé les gardes frontières, je ne sais pas où les emmener.
Les migrants sont souvent arrêtés avant d'être refoulés à la frontière ou placés dans des centres de rétention sans avoir pu demander l'asile en Pologne.
Faut-il affréter des bus pour l'Allemagne quand ils disent qu'ils veulent y aller ou les laisser entrer en Pologne avec le risque que cela devienne n'importe quoi?
Face à l'hostilité des habitants, des Polonais préfèrent se montrer solidaires. À Mirajovo, la caserne des pompiers était transformée en un centre de collecte. Sur les étagères, des barres chocolatées, des bouteilles d'eau, des médicaments. Krzysztof dirige les opérations.
Tous les deux jours, on va dans les bois, on fait des rondes. On cherche des réfugiés, on apporte à manger, à boire. C'est choquant de voir des enfants trempés, affamés, exténués. Des situations qui sont vraiment pas normales.
Dans cette partie de la Pologne, fidèle au PiS, le parti ultra-conservateur au pouvoir, Marek Nazerko, le maire de la ville, a donc choisi un autre chemin.
Le conservatisme n'empêche pas d'aider les gens. La vie, ce n'est pas de la politique. Si un enfant était trouvé mort de froid sur notre commune, dans toute l'Europe, dans le monde, on deviendrait alors des tortionnaires.
L'élu demande au plus vite l'installation de camps à la frontière et l'intervention d'organisations humanitaires.
Nicolas Burnand, envoyé spécial de RTL à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie.
Il est 8h07, nous sommes donc le 11 novembre et comme chaque année nous célébrons l'armistice de 1918, mais cette année la résistance est également à l'honneur.
Oui, la France a choisi ce 11 novembre pour rendre hommage à Hubert Germain, dernier compagnon de la Libération, décédé il y a quelques semaines, il avait 101 ans. Une cérémonie aura lieu tout à l'heure sous l'Arc de Triomphe, présidée par Emmanuel Macron, puis son corps sera transféré au Mont Valérien, principal lieu d'exécution des résistants durant la Seconde Guerre mondiale. Autre hommage ce matin, celui que notre radio RTL a souhaité rendre à l'un de ses journalistes mort il y a 20 ans, jour pour jour. Le 11 novembre 2001, sous le feu des talibans, disparaissait en Afghanistan Pierre Billot. Pierre était grand reporter à la rédaction et malgré son jeune âge, 31 ans, il avait couvert de nombreux conflits.
Une épaisse fumée noire s'élève actuellement du centre-ville de Ramallah.
Grozny sous les bombes, la ville est à 2 km. Nous sommes au dernier barrage de l'armée russe.
Ici par exemple à Tizi Ouzou, le centre-ville est complètement bloqué par des barricades.
Je me trouve à une dizaine de kilomètres de la ligne de front et ce sont bien les positions des talibans qui sont visées par les bombardiers B-52.
Dans la plaine désertique de Kalataka, pas de jeep, pas de blindés, le seul moyen d'aller au front, c'est à cheval. Pendant trois quarts d'heure, c'est une course d'obstacles naturels. Il faut traverser 5 ou 6 bras de rivière. L'eau est glacée, les chevaux ont du mal à lutter contre le courant.
Nous avons le cœur gros, le cœur serré ce matin à RTL. Nous venons d'apprendre le décès de notre envoyé spécial Pierre Billot en Afghanistan. C'est une terrible nouvelle.
Pierre Billot disparut donc il y a 20 ans en Afghanistan dans la nuit du 10 au 11 novembre, accompagné ce jour-là de 2 autres journalistes pour lesquels nous avons également ce matin une pensée. Joanne Sutton, elle travaillait à RFI, et Volker Andloïc, journaliste, lui, du magazine allemand Stern.
Dans un instant, l'histoire d'un maire qui vit barricadé dans l'hôtel de ville de sa commune. Les habitants ne savent plus quoi faire, on vous raconte cette histoire sur RTL. Restez avec nous, il est 8h09.
RTL Matin.
8h11, suite et fin du journal de Dominique Tenza. On va partir dans la Creuse, Dominique, à Chambon-Sainte-Croix, un petit village de 77 habitants.
Et qui vit depuis quelques mois au rythme des coups de sang de son maire Jacques Dailly. En mai dernier, il avait été mis en indisponibilité pour comportement agressif après avoir insulté et menacé les élus lors d'un conseil municipal. Il est depuis de retour, mais s'est barricadé dans sa mairie, Morad Jabari. Les choses ne sont pas vraiment arrangées.
Non. Oui, le maire a changé les serrures de la mairie, qui est aussi sa résidence principale. Il est en conflit avec l'ensemble du conseil municipal. Âgé de 71 ans, Jacques Dailly gère désormais la commune tout seul. Il est maire, mais aussi le secrétaire de la mairie. Il répond donc au standard.
Bonjour.
Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je voulais savoir si monsieur le maire était disponible.
C'est moi.
C'est vous, monsieur le maire ?
Oui.
Visiblement, vous êtes barricadé dans votre mairie.
Oui. D'ailleurs, je ne sors plus du tout. Mais non, c'est pas possible. C'est ouvert, tous les après-midi, c'est ouvert. Au lieu de donner des ordres à le secrétaire, je me les fais moi-même, les ordres. Donc je fais le boulot et ça va plus vite.
Pas vraiment, selon le premier adjoint, Jean-Jacques Mérigot, qui habite en face de la mairie et donc du maire. Mais attention, on ne parle pas ici d'une querelle de clocher, mais pourquoi pas d'une querelle de voisinage.
Même si c'est une querelle de voisinage, de temps en temps, ça peut déraper. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que le maire soit démis de ses fonctions, tout simplement. Quoi. Voilà. Il n'y a plus de secrétaire de mairie, quoi. Donc il est incapable de sortir la plupart des documents. Quoi.
Une médiation avec le préfet a été engagée. Sans succès, Jacques Dailly ne souhaite pas lâcher le standard de sa mairie. Seule solution, les élus municipaux aimeraient un décret en Conseil des ministres pour lui faire quitter le pouvoir.
Quelle histoire !
On va lancer le mouvement de libération de Jacques Dailly dans les meilleurs délais.
La pétition réclamant des mesures pour interdire la chasse, notamment le dimanche, vient de dépasser le cap des 100 000 signatures sur le site internet du Sénat, un seuil qui lui permet d'être examiné par les présidents de chaque groupe parlementaire, lancé en septembre dernier par Zoé Monchecourt. C'est elle qui a fondé l'association Un jour, un chasseur, après la mort accidentelle d'un jeune homme, Morgan, l'an dernier.
Alors Morgan était en train de couper du bois sur sa propriété, à 100 mètres de sa maison. Et il y a un chasseur qui l'a pris pour un sanglier, qui lui a tiré au niveau du thorax.
Qu'est-ce que vous réclamez précisément ?
Tout simplement, plus de sécurité dans les campagnes, plus de formation stricte sur le permis de chasse, un suivi des armes plus strict aussi.
Vous souhaitez aussi 2 jours sans chasse par semaine ?
Dimanche et mercredi aussi. Mercredi, c'est le jour où Morgan a été tué. C'est également le mercredi après-midi ou le mercredi matin qui est énormément de monde dehors pour que les personnes puissent se promener dehors sans qu'ils aient la peur au ventre, se retirer dessus.
Témoignage recueilli par Patrick Tégéron.
On va s'intéresser pour terminer à la taille des sardines.
Ouais, qu'est-ce qu'on est petite au fond de cette boîte pour échanter nos sardines de Méditerranée, car leur taille diminue. C'est un phénomène qui inquiète d'ailleurs beaucoup les pêcheurs de Marseille. En 10 ans, elles ont rétréci, elles sont passées de 15 à 11 cm. Et il y a à cela une raison principale, Virginie Garin.
Oui, c'est parce que leur nourriture rétrécit. Alors, ces chercheurs ont étudié dans un bassin en laboratoire 500 sardines. Ils ont donné à certaines ce qu'elles mangeaient il y a 10 ans, aux autres ce qu'elles mangent aujourd'hui. Résultat, 4 cm de différence. Claire Sarraud est écologue à l'Ifremer.
Une sardine, ça mange du plancton. Et ce qu'on a pu constater en regardant dans les estomacs des poissons, c'est qu'a priori, les espèces de plancton qu'elles consomment actuellement sont plus petites. Donc en fait, le plancton, c'est plein d'espèces différentes. Et on a eu un changement d'espèce.
Parmi les explications, le réchauffement de l'eau, le débit du Rhône aussi plus faible à cause du manque de pluie. Le fleuve apporte dans la mer beaucoup moins de nourriture pour le plancton.
Par exemple, on voit en 2003 où il y avait eu la très grosse canicule, là il y a eu de la sécheresse, les débits du Rhône étaient très faibles et les poissons étaient très maigres à ce moment-là.
Et les pêcheurs sont bien embêtés.
Ces poissons, ils sont assez petits et relativement maigres. Du coup, il n'y a pas beaucoup de débouchés, ils sont revendus très peu cher et pas rentables avec les coûts qu'il y a associés à un bateau de continuer à pêcher la sardine.
Les Marseillais se désolent, mais l'essentiel des sardines mangées en France viennent d'Atlantique, où le poisson a un avenir meilleur. Avec le réchauffement, l'espèce migre vers le nord. On trouve même désormais des sardines au large de Dunkerque.
En concurrence avec le hareng. Évidemment. Explication de Virginie Garin.
Mais alors Louis Baudin, vous nous expliquez qu'il y a quelques instants que les sardines s'adaptent aussi aux tailles des filets.
En fait, les poissons en Atlantique s'adaptent effectivement pour passer entre les mailles du filet pour que l'espèce puisse perdurer.
Et ben voilà, c'était le journal de Dominique Tenza. Dans un instant, on retrouve Cyprien Sini. Nous allons surfer avec lui.
Les littératures.
Oh bah alors là.
RTL Matin. Le surf de l'info. Cyprien Sini.
Dites-moi Cyprien, ce matin vous surfez avec Bruno Le Maire et les livres ?
Oui, l'ami des belles lettres et de la grande littérature, bonjour. Alors, sachez que dans l'actu littéraire du moment, hier, il s'est passé ça.
Bonsoir, Bruno Le Maire.
Bonsoir.
Ministre de l'économie, des finances et de la relance et auteur d'Un éternel soleil. Et si la France allait mieux qu'elle ne le croit...
Ben oui, le dernier Bruno Le Maire, 208 pages écrites entre deux réunions plan de relance. Mais alors attendez, en janvier dernier déjà.
Le ministre de l'économie et des finances qui se confie dans son nouveau livre « L'ange et la bête, mémoire provisoire » chez Gallimard.
Déjà un livre, 352 pages entre deux confinements, « L'ange et la bête », mais attendez, janvier 2019.
Nous attaquons votre nouveau très beau livre, Paul, une amitié chez Gallimard.
Paul, roman de 160 pages, oui un peu plus court celui-là. Oui. Bon, en même temps, on était en pleine crise des gilets jaunes, hein, il y avait un peu de boulot à Bercy, mais... Ah, j'en ai oublié, hein.
Ce livre, je le disais, c'est un livre de conviction de quelqu'un qui a été secrétaire d'État aux Affaires européennes, qui est aujourd'hui ministre de l'économie.
Ah mais oui, celui sur l'Europe en avril 2019, le Nouvel Empire, 121 pages. C'est aussi lui, mais alors attendez, en trois ans, non pas un, non pas deux, oui. Non pas trois, mais quatre livres, mais...
C'est un quatre à la suite, Jean-Michel.
Oui, 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 quatre à la suite en trois ans, record pour un ministre sous la Ve République. Mmh. Et tout ça, évidemment, en gérant l'économie de la France, dire que moi, il me faut quatre jours pour écrire une liste de courses. Mais alors, comment fait-il ?
Moi, j'aime ce que je fais et je me sens en pleine forme.
Ah bah oui, ça, faut être en forme, je confirme, c'est sûr. Et puis bon, il y a une certaine organisation aussi. Hein.
Je me suis levé ce matin à 5h pour aller à Varsovie, négocier un accord. Donc là, il y a une petite coupure de 25 minutes dans ma journée pour parler littérature.
Voilà, faut se lever tôt, quoi. Après, quatre livre, c'est quand même plus que le nombre de fois où il est allé assister à ça.
L'ordre du jour appelle les questions d'actualité au gouvernement.
Oui, au Sénat, vous savez, pour les questions au gouvernement.
Oui, oui, je vois, oui.
Alors, il a eu le temps d'écrire quatre livres, mais il n'a pas eu le temps d'aller au Sénat, enfin trois fois en deux ans seulement, selon le calcul de l'IB. D'ailleurs, les sénateurs, ça les a fait un peu râler, ça.
Il n'est pas normal que Bruno Le Maire ne soit pas, ne participe pas à nos travaux.
Ouais, pas ses copains, les sénateurs qui préféraient moins d'écriture et plus de présence. Mais le problème avec Bruno, c'est qu'il a beau dire...
Putain, je suis français. C'est la classe.
Faut pas se lier à ce langage de Jones, là. Non, 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 c'est un lettré, un vrai.
Un ministre qui écrit, un homme politique qui est aussi un écrivain depuis le premier jour de mon engagement politique, c'est comme ça.
Et ça, il le disait hier, mais il le disait déjà il y a trois ans.
Moi, j'ai toujours considéré que j'étais écrivain et homme politique.
Et n'allez pas croire que l'agrégé de lettres n'écrit pas lui-même ses bouquins. Même Éric Nolot, pas vraiment connu pour faire dans la dentelle le niveau critique littéraire, a dit à propos de l'écrivain Le Maire.
Paul est surtout un livre littéraire. Il n'est certes pas fréquent de trouver pareille élégance de plume chez un homme politique.
Alors, est-ce qu'entre écrire et conduire le pays, il faut vraiment choisir ça? Je vous laisse libre de décider.
Merci cher Cyprien, on vous retrouve ce soir avec toute votre équipe pour défaire le monde dans RTL Soir.
L'info autrement.
Rendez-vous est pris avec grand plaisir.
À ce soir.
RTL Matin. Le choix d'Yves Calvi.
Il est 8h21. Bonjour Alain Bauer.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL à l'occasion de la publication de votre livre qui fera référence. Ce sont des confessions gastronomiques sur le restaurant d'après, publié chez Fayard. Ils sont aussi le fruit de vos rencontres avec 59 chefs, cuisiniers, restaurateurs. Avant de parler filet mignon, j'ai une première question pour éclairer ceux qui nous écoutent et qui ont l'habitude de vous entendre parler de la délinquance, de la criminalité, bref, de toutes les atrocités du monde. Il vous fallait une forme d'exitoire pour passer à table ?
Non, j'ai commencé avant la criminalité. Et puis vous savez, la différence entre le crime et la gastronomie, c'est juste le mode de cuisson. Dans la réalité, mon père, quand j'étais beaucoup plus jeune, m'a fait la tournée des restaurants en fonction de mes résultats scolaires.
Voilà. Donc Monsieur Boerper a joué un rôle dans tout ça.
Voilà, Monsieur Boerper a eu une action déterminante dans ma relation avec le restaurant, le restaurateur, le chef ou la chef d'ailleurs. Hein, c'est un hommage aussi aux chefeuses. Oui. Et ça m'est resté. Et en fait, j'ai profité à la fois d'une incitation forte de mon éditeur, Nicolas Dia, qui m'a dit « Bon, il faut quand même faire un truc plus ludique, plus intéressant et plus au cœur de ce qu'a été ma vie d'avant. Oui. » pour parler du restaurant d'après. Et donc, entre deux confinements, trois crises, des incertitudes, etc., tous les chefs que je connaissais, chez qui j'étais déjà allé, je leur ai envoyé un petit mot. Oui. Alors, la quasi-totalité m'ont répondu. Mmh. Certains m'ont dit « pas maintenant », d'autres m'ont dit « je peux pas », d'autres m'ont dit « je ne veux pas », et ça a abouti à ce résultat.
Alors évidemment, la France a une histoire, vous nous le rappelez dans ce livre, mais pourquoi des confessions? Et qu'est-ce qui préside à ce que vous appelez, vous, le restaurant d'après? C'est quoi, l'après-Covid, l'après-crise?
L'après-tout. Ils avaient une crise dont ils ne s'étaient pas rendus compte, la crise du personnel, la crise de la relation à la cuisine, la crise de la cuisine allégée, quelque chose qu'avait imaginé Alain Chapelle il y a très longtemps, qui nous a quittés trop tôt, qui a été accompagné par la nouvelle cuisine, par la cuisine Pense au Sud, par Joël Robuchon, par Alain Ducasse, et puis par une extraordinaire nouvelle génération de chefs et de chefs au féminin, qui ne sont plus des mères, mais qui sont des vrais chefs. Et c'était très intéressant de les voir s'interroger là-dessus. Et puis, confession, parce que ce qu'ils ont commencé à me raconter était d'une telle intimité, d'une telle confiance, qu'à la fin, je me suis dit que c'était une sorte de confession laïque, et donc gastronomique.
Alors, à chacun son restaurant, écrivez-vous. Vous nous rappelez qu'il y a une histoire des cuisiniers français, vous venez de l'évoquer, du cuistot au chef, et à tous ces nouveaux visages dont la télévision s'est emparée, notamment. Hein. On en sait quelque chose, nous, dans le groupe RTL M6 avec Top Chef. C'est formidable parce qu'on remonte avec vous des recettes, la biographie de 59 chefs, et en fait, on se projette dans l'avenir.
Exactement. D'abord, ils rappellent ce qui a été un élément marquant de leur vie par une recette nostalgique. Mmh. Ce n'est pas un livre de recettes, ce n'est pas le sujet.
Mais on est bien content de les trouver quand même, je vous le dis.
Mais,
voilà.
Mais c'est intime, c'est intimiste, c'est très personnel et c'est vraiment au cœur de ça. Et puis, ils ont tous dû réfléchir non seulement à gérer la crise pendant la crise, mais à ce que serait le restaurant d'après. Et ils sont tous revenus au bistrot, à l'auberge. Ils ont tous une vision d'un restaurant plus petit, plus proche, plus démocratique, plus accessible, plus nourrissant. Oui. On n'est pas au steak au soja encore.
Non, on est bien d'accord.
Chacun dit qu'ils ne sont peut-être pas prêts à passer tout à fait vers là, mais au retour aux produits de proximité, à l'accessibilité, pas trop cher, à l'ouverture, la diversité, bref, le feu de bois, la marmite et la table d'hôte.
Ah là là, je me sens bien. Alors, parmi ces rencontres, Amandine Chéniaud, le restaurant Pouliche, le café de Luce et une recette de quenelle Bocuse d'or de volaille au mori et sauce poulette. Je serais tenté de vous dire bonjour ma poulette. En tout cas, bonjour Amandine Chéniaud d'être avec nous.
Bonjour.
Ça vous a plu de débattre avec Alain Bauer ?
Oui, c'était une. Moi, j'ai vraiment vécu comme une conversation où on s'est raconté un petit peu nos quotidiens, nos vies, et c'était très agréable, ouais.
Et est-ce que le Covid a été une remise en cause ou au moins une réflexion pour vous en tant que chef?
Le Covid a été une sacrée claque, on peut dire, qui a bousculé toute une profession et qui moi m'a pris après moins de 5 mois d'ouverture pour le restaurant Pouliche. Donc, je sais pas si vous imaginez, mais quand on met toute son énergie et qu'on investit autant de temps et aussi de moyens financiers dans un restaurant et qu'au bout de 5 mois, on est obligé de le fermer, c'est quand même assez violent.
À quoi vous pensez quand vous vous levez le matin et que votre journée démarre, Amandine Chéniaud ?
Moi, je suis très heureuse de venir dans mes maisons, de voir mes équipes, de passer un moment avec eux, de mettre la main dans les girolles, de discuter avec mes clients. C'est un lieu de vie et c'est un lieu de retrouvailles. C'est ça que j'aime dans la restauration d'aujourd'hui.
En tout cas, vous êtes un visage qui incarne l'avenir de notre gastronomie. Je vois un Alain Bauer souriant. Ça vous fait du bien d'entendre Amandine Chéniaud, Alain Bauer ?
Ah, ça m'a fait du bien d'entendre toute cette nouvelle génération. Amandine, elle a un parcours dans des très grandes maisons et elle a passé le cap de le restaurant d'après tel qu'il va être. Parce que je crois que l'avenir, c'est ce qu'elle fait, ce que fait Christopher H, ce que fait Amélie Darvas et Gabi Benicio, toute cette génération absolument extraordinaire qui a réouvert des espaces. Et puis ceux qui ont repris le flambeau des grandes maisons, je pense à Jean Sulpice, ou Laurent Petit, ou voilà, il y a des grandes maisons qui sont en train de revivre, des vieilles maisons qui survivent et toute une nouvelle génération qui nous donne une idée inédite de ce que va être la gastronomie. Cette inédite, en fait, c'est celle qu'on avait oubliée. Ce qu'était notre gastronomie d'avant va être notre gastronomie d'après.
Amandine Chénion, et d'ailleurs, dès la première page, si je me souviens bien, Alain Bauer en parle, bon, les mères lyonnaises, est-ce que vous trouvez que les femmes aujourd'hui ont vraiment leur place dans cette vie de la gastronomie française au XXIe siècle et dans la projection dans l'avenir, Amandine ?
Bah, bien sûr, moi ça me paraît être une évidence. Évidemment, il y a toujours des barrières, il y a toujours des a priori de la part de plein de gens et parfois même aussi de femmes.
Vous avez raison.
Mais évidemment qu'on a notre place ici.
Bon, et vous vous sentez bien dans cet univers ?
Ah, mais moi je me sens très en phase et très sereine et complètement alignée par rapport à mes valeurs et par rapport à mes envies aujourd'hui, ouais, complètement.
Alain Bauer, on peut feuilleter votre livre en passant par les recettes aussi. Alors je cite « Tourte à la volaille aux champignons et 12 épices ». Plus simple peut-être, « Saint-Jacques au beurre salé et fondu de poireaux ». Encore plus simple, « La soupe de mon enfance » par Marc Vera ou le gratin de coquillettes qu'on peut éventuellement accompagner d'un civet de lièvre de David Toutain. Vous vous êtes fait plaisir aussi, c'est un bonheur ce livre, non ?
Ah, c'était magnifique par la confiance, par l'intimité. Ouais. Par des révélations. Par exemple, on retrouve un Michel Guérard, qui est le pape de la gastronomie, mais qui vous raconte ses années de jeunesse, qui sont beaucoup plus olé-olé que l'idée qu'on pourrait se faire de cet homme qui est à la fois plein de sagesse et plein de créativité permanente, qui du coup a remis à la carte de son restaurant la recette qu'il avait retrouvée. Parce qu'à chacun, j'ai dit, mais c'est quoi la recette qui a marqué votre concours, votre premier repas, etc. Et puis, il me tortait, on dit, ah, mais je l'avais oublié celle-là, ben, je vais la remettre à la carte. Donc, en plus, on va en retrouver non seulement dans le livre, on peut toutes les faire chez soi, toutes.
Oui. Ah, ben,
on peut aussi les retrouver désormais dans certaines belles cartes.
Ah, ça, c'est formidable. Votre dernier bon repas avant de nous séparer, Alain Bauer ?
Mon dernier bon repas.
Un plat ou quelque chose qui vous a marqué
récemment. Écoute, j'étais chez Jean-François Piège, qui vient d'ouvrir un petit restaurant à l'hôtel de la Marine, qui s'appelle Mimosa, et j'ai fait un remarquable repas tout à fait étonnant, de qualité, de convivialité, et dans une version plutôt brasserie que grand restaurant.
Merci beaucoup Alain Bauer, vos confessions gastronomiques avec 59 chefs, cuisiniers et restaurateurs viennent donc d'être publiés aux éditions Fayard. Un grand merci aussi à Amandine Chénion du restaurant Pouliche et du Café de Luce. Vous nous avez donné une belle énergie en ce 11 novembre et je partage avec vous Alain Bauer d'avoir découvert les restaurants, moi aussi en marchant dans Paris avec mon père. Bonne journée à vous.
Et bon appétit à tous.
Dans un instant la météo à 7 jours avec Louis Baudin et nous irons dormir dans un bus à Hong Kong avec notre correspondant Philippe Dova. Oui, vous avez bien entendu, dormir dans un bus à Hong Kong.
Yves Calvi, RTL Matin. RTL Matin.
8h32, Louis Baudin, on vous retrouve avec grand plaisir, d'autant plus que c'est notre météo à 7 jours et que voilà, comme ça bouge tout le temps, évidemment.
Vous
avez des histoires à nous raconter.
Vous avez bien raison, avec aujourd'hui encore des averses près de la Méditerranée, mais ailleurs plutôt du temps sec et ensoleillé cet après-midi si les brouillards veulent bien se lever, ce qui devrait quand même être le cas dans la plupart des régions. Un peu plus de nuages dans le Nord-Pas-de-Calais, les températures de saison, autour de 10 degrés dans la moitié nord, un peu plus de 15 degrés dans le sud. Demain, c'est quasiment la même chose. Il restera encore quelques averses près de la Méditerranée, mais plutôt en régression, peut-être encore entre la Côte d'Azur et la Corse, mais il y en aura moins ailleurs, notamment autour du Golfe du Lion. Dans les autres régions, comme aujourd'hui, on aura des brouillards le matin, plus ou moins denses, des nuages et l'après-midi, l'espoir d'avoir de belles éclaircies. Mais en fin de journée, reviendront déjà des nuages près de la Manche. Et ça, malheureusement, ça annonce une dégradation pour ce week-end.
Oui.
Entre samedi et dimanche, on va repasser une perturbation du nord vers le sud. Donc des nuages, quelques pluies, pas forcément de grosses quantités, mais un temps humide va circuler donc du nord vers le sud. C'est surtout samedi qu'on aura les précipitations dans la moitié nord. Dimanche, ça sera plutôt dans le sud. Dans le nord, on retrouvera quelques éclaircies. Mais bon, je pense que les nuages seront encore très présents, même s'il y a moins de pluie. Les températures bougeront assez peu, autour de 10 degrés dans la moitié nord. Mais comme on aura eu plus de nuages dans la nuit, il y aura moins de gelée le matin. Et puis en début de semaine prochaine, nouvelle petite période d'accalmie avec le retour retour de quelques gelées le matin, un temps un petit peu plus sec, et puis peut-être des perturbations au milieu de semaine prochaine, mais c'est encore un petit peu loin. Donc vous voyez, c'est l'alternance. Bon, ça tombe mal, ce week-end s'annonce quand même un peu plus nuageux et humide.
Merci beaucoup Louis Baudin de nous avoir accompagnés une fois de plus dans cette matinale. Si vous saviez que nous sommes heureux, toutes les équipes d'RTL, de travailler les jours fériés, parce que c'est aussi un climat tout à fait particulier dans les rédactions, et vous amenez de l'information, du sourire et de la curiosité, et pour nous un immense plaisir, et ça va continuer, puisqu'on va retrouver RTL autour du monde, et on part à Hong Kong, vous allez entendre des choses tout à fait étonnantes.
RTL autour du monde.
Et nous vous faisons découvrir ce matin une drôle d'expérience, celle de dormir 5 heures dans un bus pour un budget compris entre 11 et 44 euros. C'est ce que propose une agence de voyage à Hong Kong. Et vous allez nous expliquer tout cela. Bonjour Philippe Dova.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Vous êtes notre correspondant dans la région. Présentez-nous ce bus qui ressemble un peu à un bus magique.
Oui, après les vols et les croisières sans destination, voici le Sleeping Bus Tour. Un bus pour nulle part, mais un bus destiné en priorité aux insomniaques pour les aider à trouver le sommeil. Goodbye Insomnia, imaginé par l'agence de voyage Hulu Travel, propose, durant 5 heures, une boucle de 76 km à travers le territoire de Hong Kong, à bord d'un bus très silencieux à Impérial, identique à ceux des lignes régulières qui sillonnent la ville. Le pont supérieur est strictement réservé aux dormeurs, le pont inférieur permet lui de se reposer, discuter entre amis, tout en admirant les paysages. Une expérience insolite qui laisse plutôt dubitatif les professionnels du tourisme, comme Ronnie Ho, président de Jet Tour Holding.
J'ai dîné avec un certain nombre d'agents de voyage et ils n'étaient pas au courant de l'existence de ce bus du sommeil. Ce nouveau produit est une bonne idée, mais je ne pense pas qu'il connaîtra un grand succès, parce que ce n'est pas vraiment très intéressant de passer de nombreuses heures dans un bus.
En deuxième année d'études de commerce à la Hong Kong University of Science and Technology, le sujet fait débat parmi les étudiantes. Sam et Adia sont plutôt séduites par l'idée.
J'étais très surprise de cette idée, mais maintenant je trouve ça très excitant. J'ai vraiment envie d'essayer et je vais acheter mon billet.
11 euros pour dormir dans un environnement de 0 décibel pendant 5 heures, c'est beaucoup plus abordable pour tout le monde qu'un séjour à l'hôtel.
Stéphanie et Sarah sont pour leur part beaucoup moins convaincues.
Je ne pense pas que je prendrai ce bus car je trouve que les sièges ne sont pas assez confortables pour dormir.
Il y a d'autres solutions pour dormir comme les sleep hotels que les gens peuvent louer pendant 5 heures ou même une heure pour une sieste. C'est beaucoup plus rapide.
Mais pourquoi les Hongkongais ne se reposent-ils pas chez eux plutôt que dans un bus ou à l'hôtel ?
Alors le temps de sommeil est un vrai problème pour une grande majorité des Hongkongais dans une ville où le prix de l'immobilier est exorbitant et où il n'est pas rare que plusieurs générations d'une même famille cohabitent dans 25 mètres carrés. Ronnie Ho.
La plupart des ouvriers, la classe moyenne, habitent dans des très petits appartements et ne peuvent pas dormir. Lorsqu'ils vont au travail le matin, en particulier ceux qui habitent très loin de leur lieu de travail, ils s'endorment dans les transports en commun.
Et pour Sarah, le stress s'ajoute au manque de sommeil.
Hong Kong est une ville polluée par le bruit. Il y a toujours des voitures, des gens qui parlent fort dans la ville. C'est une ville dans laquelle on se sent oppressé.
Et les mesures strictes de quarantaine imposées depuis le début de la pandémie n'ont fait qu'aggraver les choses.
Beaucoup de personnes sont stressées, on est bloqué, on ne peut pas voyager depuis plus de 2 ans. Avant, les Hongkongais avaient l'habitude de voyager chaque mois, ils trouvent la vie très triste et ennuyeuse et ils ne dorment pas bien. Ils sont nombreux, moi y compris, à boire plus de vin le soir. Au moins, c'est bon pour les exportations de vin français.
Boire ou se faire conduire en bus pour bien dormir, les Hongkongais n'ont qu'à choisir. Le prochain Sleeping Bus Tour est prévu le 14 novembre et il reste encore quelques places à 44 euros.
La boucle bus à Hong Kong, un reportage de Philippe Dova à retrouver sur RTL.fr puisqu'il est notre correspondant dans la région. On va retrouver Isabelle Choquet dans un instant. De quoi allez-vous nous parler, chère Isabelle ?
Des urgentistes de l'extrême et d'une machine assez extraordinaire.
À tout de suite.
RTL Matin, la face cachée de la Une.
Il est 8h39, on vous retrouve Isabelle Choquet pour parler de ces urgentistes qui repoussent les limites de la vie.
Oui, et leur secret, c'est ECMO, une machine capable d'oxygéner le sang et de le renvoyer dans l'organisme. Alors, elle était employée en chirurgie cardiaque, elle peut désormais être utilisée partout en cas d'arrêt du cœur. C'est l'opération de la dernière chance, pratiquée seulement par quelques pionniers. Paris Match a pu suivre ces urgentistes de l'extrême en intervention, et notamment dans le métro parisien. Station La Chapelle, le 15 octobre dernier, Un homme de 26 ans est aux portes de la mort en arrêt cardiaque. Ses vêtements ont été découpés par les pompiers. Ils ont pratiqué un massage cardiaque longtemps. Puis l'équipe du SMUR en Lariboisière a pris le relais. Réanimation, choc électrique, rien à faire. Sans oxygène, le cerveau s'éteint en quelques minutes. Reste un espoir, ECMO, qui peut remplacer le cœur et les poumons défaillants le temps d'arriver à l'hôpital. ECMO, c'est donc une technique de chirurgie cardiaque qui a fini par sortir du bloc. Elle a été développée dans le service du professeur Pierre Carly, le chef du SAMU de Paris. Une équipe de choc a été formée, des infirmiers anesthésistes et 6 médecins du SAMU Necker, dont le docteur Lionel Lameau, l'un des 2 inventeurs du dispositif mobile. Pour les premières interventions, dit-il, on utilisait nos voitures personnelles, la machine pesait 20 kilos. Bon, depuis, on l'a miniaturisée. À chaque départ, déclenché par la régulation du SAMU, il y a des règles très strictes. On dispose d'un délai de 60 minutes entre le malaise et l'activation de la pompe. On intervient après échec d'au moins 20 minutes de réanimation et, parmi les critères de sélection, que l'âge soit généralement inférieur à 65 ans, qu'il y ait des signes de vie, des soupirs, des mouvements, une réaction des pupilles et que le massage cardiaque ait été pratiqué dans les 5 premières minutes. Oui, car une seule minute sans circulation sanguine, c'est 10% de chances en moins de s'en sortir et peut-être des dommages irréversibles au cerveau. Il y a près de 50 000 arrêts cardiaques chaque année en France, 95% de décès. Grâce à l'ECMO, le taux de survie atteint 30%. Incroyable. L'ECMO permet de sauver des gens qu'on laissait avant, morts sur place, sans aucune chance d'arriver à l'hôpital, dit le professeur Carly. Des gens dont on récupérait l'arrêt cardiaque, parfois ils ouvraient les yeux et puis leur cœur s'arrêtait à nouveau. On les tenait par la main, par un fil, et ils nous échappaient. Retour dans le métro. Le docteur Lameau est à genoux, en tenue stérile, assisté par une urgentiste de Lariboisière. Il est 14h37. L'opération peut commencer. Il faut rapidement inciser le haut de la cuisse, trouver une veine, une artère, introduire les canules pour aspirer le sang, l'oxygéner via l'ECMO, le renvoyer dans l'organisme. 14h46, la machine est enfin branchée, elle tourne, il n'aura fallu que 9 minutes. Dans un tuyau, on voit passer le sang sombre, dans un autre, celui régénéré qui est un peu plus vif en couleur. La circulation extracorporelle est établie, le visage de l'homme reprend peu à peu les couleurs de la vie. C'est un moment d'exception, un moment de grâce, il n'y a qu'une quarantaine d'interventions de ce type dans l'année. L'idée, c'est d'intervenir toujours plus vite. Alors les recherches continuent. On parle de montres connectées et d'intelligence artificielle pour détecter les signes avant-coureurs de l'arrêt cardiaque. L'espoir, c'est aussi une formation du plus grand nombre aux gestes qui sauvent. Il n'y a que 20% des Français qui sont capables de réaliser un message cardiaque. C'est 80% des Allemands. Or, sans message cardiaque, dès les premières minutes, eh bien, il n'y a pas de miracle avec ou sans ECMO. Les urgentistes de l'impossible, c'est un reportage en mots et en photo dans Paris Match cette semaine.
Une fois de plus, vous nous avez passionnés et émus. Merci beaucoup. On se retrouve demain matin, Isabelle.
Avec plaisir, à demain.
Vous êtes comme ça.
Vous êtes comme ça prend aujourd'hui la direction du sud de la Gironde à la rencontre d'un pompier professionnel qui a décidé de créer tout seul un musée, et un musée des pompiers. Le premier en France et l'un des rares dans le monde d'ailleurs. Pour cela, il a investi un immense hangar désaffecté qui servait autrefois à la fabrication du tabac pour le transformer en espace, pardonnez-moi, d'exposition, totalement dédié aux pompiers de 150 pays. Bonjour Denis Grandjou.
Bonjour Yves, bonjour à toutes et à tous.
Alors vous nous faites découvrir en avant-première ce musée.
Oui, Nicolas Gogol l'avoue.
C'est un projet fou, c'est un rêve de 25 ans de vie et 25 ans de collection.
Depuis 2 ans, lorsque Nicolas n'est pas dans sa caserne, il travaille sans répit à l'organisation et l'agencement de son musée.
Le but du musée, c'était de vraiment montrer la partie histoire, la partie prévention, la partie technique où j'ai recréé différentes interventions actuelles et la partie internationale où les gens vont pouvoir intégrer un corps de pompier au Chili, un corps de pompier en Afrique et de se mettre vraiment dans la peau d'un pompier.
Nicolas a réussi l'incroyable tour de force de récupérer plus de 500 casques venus des 4 coins du monde. Certains sont totalement étonnants, comme ce casque Asperger d'eau.
Sieb et Gorman, c'était deux personnes qui ont inventé les scaphandriers et qui ont eu cette idée d'envoyer de l'air avec un soufflet et en même temps d'envoyer de l'eau au niveau de la tête du pompier.
Et donc le pompier rentrait en intervention avec de l'eau qui coulait au-dessus de son casque.
Oui, c'était la douche. Ils avaient déjà inventé une douche pour la protection du personnel.
On apprend dans son musée l'origine du mot sapeur-pompier.
C'est sapé, c'est coupé avec la hache. Et pompiers avec la pompe, les premières arrivées des pompes à bras en 1700-1730, et les pompes à bras sapeurs-pompiers.
Les premiers pompiers chez nous, alors, tels qu'on les imagine, ils sont arrivés quand?
Les premiers pompiers officiels garde-pompe, donc sous Napoléon.
On apprend aussi pourquoi le rouge est la couleur préférée des pompiers. On le doit à nos amis anglais.
Les fabricants anglais du Pays-Bas avaient d'énormes avancées au niveau des pompes à vapeur. Et étant donné qu'il fait un temps presque superbe en Angleterre, le rouge sortait du brouillard. Et donc on importait ces pompes. Et en 1885, le rouge est devenu officiellement rouge pompier.
Le musée de Nicolas permet aussi de se balader devant de larges vitrines où sont soigneusement exposés des milliers de véhicules de pompiers en modèle réduit, sans parler des échelles, des tuyaux. Il a même recomposé un appartement totalement brûlé dans lequel on avance dans le noir et la fumée. Bref, Nicolas est un véritable amoureux de son métier de pompier.
Oui, c'est plus qu'amoureux, là, c'est drogué de mon travail. Mais bon, après, c'est le partage qui fait tout et le retour des gens, du matériel qu'on me donne et puis que ça rappelle des souvenirs à des anciens et puis voilà, ça fait une nouvelle image au niveau de la profession qui est quand même intéressante.
Est-ce que finalement le pompier de 1700 et le pompier de 2021, c'est le même?
Non, ben, les risques ne sont pas les mêmes, les tenues ne sont pas les mêmes.
Mais l'engagement est le même.
L'engagement est le même, donc on reste sur nos valeurs où sauver, comme diraient les pompiers de Paris, sauver ou périr, voilà.
Le premier musée des pompiers en France à découvrir de toute urgence à Langon, près de Bordeaux.
Ça fait toujours du bien un bon petit coup de sirène de pompier qui nous annonce d'ailleurs la venue de monsieur Laurent Gérard et de toute son équipe dans quelques instants sur RTL. Il est 8h46, passez une très bonne journée. On est le 11 novembre, on vous espère détendu. A tout de suite.
RTL Matin, Yves Calvi.
Bonjour Laurent Gérard.
Bonjour Yves.
Bonjour mademoiselle Jeanne.
Bonjour monsieur Calvi. Album de reprise, exposition, spectacle, la France fête les 100 ans de la naissance de l'immense Georges Brassens. Mmh. Nous avons voulu bien sûr nous aussi rendre hommage au plus grand poète de la chanson française en imaginant ce que Thierry Ardisson, qui vous le savez va faire parler nos morts sur France Télévisions dans son émission Hôtel du Temps, ce qu'il pourrait demander à tonton Georges.
Salut les terriens! Ouais. Salut Georges, ouais. Alors dis-nous Georges, question sans tabou, question archi-con Georges. Alors Georges, ouais. Dans tes chansons, il y a beaucoup de questions de Jeanne, ouais. La Jeanne qui doit être une sacrée bonasse. Vu ce que tu lui as écrit, pas moins de 5 chansons, ouais, 5 chansons. Alors Georges, question archi-super-con. La Jeanne, tu te l'es faite? Ouais.
Vous savez, je peux peut-être me tromper, mais tout ce que j'ai à dire sur la Jeanne et sur ses chats, je crois l'avoir dit dans mes petites chansons. Peut-être qu'elles ne sont pas aussi claires que celles de Tino ou de Charles Trenet et qu'elles prêtent à confusion. Et je m'en excuse, mais vous savez, dans une autre de mes chansonnettes, j'ai aussi écrit qu'entre autres, fine fleur, je compte sur ma liste bon nombre de femmes de journalistes. Alors, gare aux gorilles.
Passons maintenant à l'interview de Georges Brassens par un autre grand accoucheur de personnalité, Marc-Olivier Fogiel.
Appelez-moi mof, c'est plus speed, c'est plus quick. Alors Georges Brassens, en ce moment vous faites le buzz, le méga buzz. Vous n'en avez pas marre de porter toujours ces polos marronasses, hyper ringards, et de jouer toujours la même chose avec votre guitare en bois toute pourrie, et la pipe, oh, mais c'est fini la pipe, c'est sale la pipe, Burke, oh, la pipe, oh. Alors si vous aussi, les auditeurs, vous trouvez que Georges Brassens est tout ringard, qu'il est over-ringard, envoyez-nous des tweets sur Twitter.
Et vous savez, je peux peut-être me tromper, mais je crois qu'on ne peut pas être partout à la fois dans son apparence et dans ses chansons. En tout cas, moi, je ne peux pas, alors j'ai choisi de travailler mes petits textes plutôt que mes polos ou ma coiffure, mais j'ai sans doute tort.
J'ai rien compris, hein. Il m'a tout embrouillé, mon interview. Alors, si vous n'avez rien compris, envoyez-nous des pocs sur mon mur Facebook.
C'est vrai que ma réponse est peut-être un peu trop alambiquée. Je vous prie de m'excuser si c'est le cas. Et comme je vous l'ai dit, je peux aussi peut-être me tromper, mais d'autres que moi le pensent aussi, comme mon ami Paul Léoto.
Paul Léoto? Qu'est-ce que c'est que ce nobody, Georges Brassens? C'est pas Léotard. Oh, la gaffe. C'est pas Léotard, Georges. Vous voulez parler de Léotard, François Léotard? Un spin de la politique, un totalement ringard comme vous, Georges Brassens. Alors, vraiment, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi parlez-vous toujours des vieux, des seniors, des has-been, Georges Brassens?
Je peux peut-être me tromper, mais il y a quelques années, j'ai commis une petite chanson qui disait quelque chose comme ça. Le temps ne fait rien à l'affaire, quand on est con, qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père, quand on est con, on est con.
J'ai rien compris encore.
Merci Marc-Olivier pour ce grand moment de journalisme. Voyons maintenant comment s'en tire Patrice Sébastien.
Alors tout d'abord, Georges, je veux dire que toi et moi, on est comme des frangins de la déconne grivoise. D'abord, on a un peu la même marraine dans le métier. La tienne, c'était Patachou. La mienne, c'est Chatapou. Putain. Hein, alias Denise. D'ailleurs, quand je me déguisais en Georges Brassens dans mon carnaval, on aurait dit ma belle-sœur qui a de la moustache. Ce qui prouve bien que toi et moi, on est de la même famille. T'as qu'à regarder les séquences sur YourTube. YourTube, tu connais, non? C'est hyper bluffant, carrément, carrément. Alors mon petit Georges, avant de te faire voir un numéro de folie, Los Branlotos, un numéro printanier, un duo de branleurs vénézuéliens, je voudrais te poser une question qui me turlupine.
Ah bah oui.
Depuis longtemps, attention, mademoiselle Jeanne. Turlupine, c'est pas cochon.
Non, je sais bien.
C'est quoi après l'émission? Ça vient du vieux français, turluté. Épiné. Alors, ma question, Georges, c'est au sujet de ta chanson, Pénélope. Moi, personnellement, j'adore. Mais si je l'avais écrite, j'aurais fait aimer Pénélope avec Sacré Salope. Alors que toi, tu fais aimer avec Pensée Interlope. Putain, Georges, c'est quoi cette grossière erreur?
Je peux peut-être me tromper, mais il me semble qu'il ne faut jamais aller trop vite vers la rime la plus facile. Tino disait toujours qu'il faut prendre le chemin le plus long pour aller à la mer parce que c'est là qu'on entend chanter les cigales. Alors, c'est aussi pour ça que je fais la rime buissonnière.
Nous avons maintenant les confrères contemporains de Georges Brassens qui ont souhaité lui rendre un hommage en chanson. On commence avec Étienne Dao et le gorille. Merci Étienne. Autre chanteur à texte qui a voulu rendre hommage à Brassens, Bernard Lavilliers.
Elle est à toi. C'est de Consonas. Toi l'Auvergnatos, qui, sans façonne, m'a donné de la tequila quand dans ma vie il faisait froid. Toi qui n'as pas applaudi quando, les crocantos, les guerrieros, tous ces gens bien intentionnos m'avaient formé la porte al nasos. Ce n'était rien qu'un peu de tequila, mais il m'avait chauffé le corps.
Merci Bernard.
Et dans mon âme, il brûle encore, à la manière... une tequilas.
On va terminer avec une version orientale par Enrico de la Jeanne.
Oui, je pense que parce que cette chanson, c'est avant tout une chanson de cœur. Une chanson qui se partage. Il ne faut pas oublier que la Jeanne, elle a accueilli Georges Brassens. Comme moi, j'accueille vraiment toute la terre. Et tous les désespérés. Alors j'ai voulu faire cette petite version de la Jeanne, mais version orientale, comme vous l'avez si bien dit, sœur Jeanne. Chez oui, Jamila, Tata Jamila, on est n'importe qui, on vient n'importe quand, mais il faut pas rester quand elle perd sa dent. Sa dent en or dans le tagine. On fait partie de la famille, dans son cœur en se poussant un peu, on a de la place.
Termine trop vite.
Bah oui, bah oui, c'est toujours comme ça, vous savez.
Bah oui. Ah, tiens.
Le vrai ?
Bah je crois bien. Faudrait que ça démarre. Ah non, ça démarre pas.
Allez, Georges.
Non. Non, mais c'est ça. C'est un des petits problèmes que j'ai personnellement avec Georges Brassens, c'est que parfois je trouve ça un petit peu long à démarrer. J'en parlerai à mon chat qui est son sosie.
Vous savez, c'est une autre époque.
J'ai un chat qui est le sosie de Georges Brassens. Je vous promets que c'est vrai.
C'est pas possible.
Il s'appelle Mimi Gris.
Ça va, monsieur Calvi?
Non, mais je vous promets, quand vous lui mettez une guitare devant lui, je vous promets, c'est la même expression du regard, mais personne ne me prend au sérieux et j'en souffre beaucoup. Enfin, ça n'a aucune importance.
Vous êtes seul sur ce coup-là.
Un petit peu, dans un instant, on va se rasséréner, si je puis dire, avec notre ami Cyril Lignac et sa recette du jour.
RTL. RTL Matin, Yves Calvi.
Bonjour, cher Cyril Lignac.
Bonjour.
Alors, Louisa vit dans Mulhouse.
puis elle vous demande comment faire un gâteau au chocolat, type fondant, mais sans sucre, cher Cyril, attention.
Alors, c'est vrai que maintenant, déjà la pâtisserie est beaucoup moins sucrée qu'auparavant.
Heureusement.
Et on peut toujours s'amuser à remplacer le sucre. Alors, il y a du sucre de noix de coco. Mmh. On peut aussi utiliser les fruits et sucrer grâce aux fruits, comme j'ai fait là. Donc, j'ai pris 200 grammes de chocolat noir que j'ai fait fondre au bain-marie. J'ai pris 3 œufs que j'ai battus en omelette. Mmh. J'y ai ajouté 40 grammes de farine et 20 grammes de maïzena. Je mélange et à côté, j'ai pris des pommes. On les cuit compote avec de la vanille, sans sucre ajouté. On laisse mijoter. Et ensuite, à l'intérieur de notre gâteau, on verse la compote. On met ça dans un moule, on cuit à 180 degrés. Et finalement, ce qui est bien, c'est qu'on va avoir ce côté fruit, chocolat, ça va cuire ensemble. Et on va avoir à la fois l'acidulé de la pomme, le goût de la vanille, sans sucre ajouté. Et ça, c'est bon.
Bon, vous me le présentez très bien et surtout, vous avez répondu à la demande de Louisa. Moi, je vous pose quand même une question. Qu'est-ce qui domine, le chocolat ou la pomme? Et est-ce que ça ne peut pas être un petit peu contradictoire?
Alors, les deux, mon général.
Vous comprenez ma question?
Bien sûr. Oui. Les deux, mon général, parce qu'on va forcément avoir ce goût de fruits. Mmh. Et donc, le chocolat avec les fruits, ça fonctionne bien. Mmh. Et on va avoir ce côté un peu acidulé. Et on va surtout avoir cette sensation un peu de sucrosité sans en avoir mis à l'intérieur. Mmh. Alors bien entendu, on peut aussi couper, faire 100 grammes de chocolat au lait, 100 grammes de chocolat noir.
Bien sûr.
Et là, on ajoute du sucre. Mais on peut travailler aussi beaucoup pour les diabétiques, comme ça, en sucrant, juste avec les fruits.
Avec les fruits, verser dans un moule beurré et cuire 20 minutes à 180 degrés. L'intégralité de la recette est à retrouver sur le site rtl.fr. Merci beaucoup Cyril.
Merci,
et à demain. Il est 9h01.
RTL Matin, Yves Calvi.
L'essentiel de l'actualité, Dominique Tenza.
L'hommage d'abord au dernier compagnon de la Libération, Hubert Germain, disparu il y a quelques semaines à l'âge de 101 ans. Une cérémonie sous l'Arc de Triomphe débutera dans un peu plus d'une heure, présidée par Emmanuel Macron, avant que sa dépouille ne soit inhumée au Mont Valérien, lieu symbolique où étaient exécutés les résistants durant la Seconde Guerre mondiale. Aminata Diallo, la joueuse du Paris Saint-Germain, a-t-elle commandité la violente agression la semaine dernière de sa coéquipière Keira Amraoui? Elle a été placée en garde à vue hier. Les enquêteurs soupçonnent une rivalité entre les deux femmes, pourtant amies, mais qui partagent le même poste sur le terrain, ce qui aurait pu nourrir de la jalousie et mener à ce règlement de compte. Le meurtrier de Mireille Knoll, condamné à la prison à perpétuité, la cour d'assises a estimé que Yacine Mioub avait agi en raison, notamment de la religion de la victime. L'octogénaire a été tué parce qu'elle était juive. L'autre accusé a écopé, lui, de 15 ans de prison pour avoir volé Mireille Knoll et cambriolé son domicile après sa mort. Et puis la jeune adolescente partie courir en forêt lundi et retrouvée vivante mercredi soir a pu rejoindre sa famille. Hier, elle dit avoir échappé à deux ravisseurs et parle d'une camionnette verte. Les enquêteurs tentent de vérifier la fiabilité du récit. Aucune interpellation n'a pour l'instant eu lieu.
Merci beaucoup, Dominique.